Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup! Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important, c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Lyon en compagnie de Laurent Bouzon, le CEO et cofondateur de Lyco. Alors Lyco fournit à ses clients une technologie d'agrégation de modes de transport terrestre. On le verra dans cet épisode, ce n'était pas l'idée de départ, mais Laurent et son équipe ont dû plusieurs fois changer de cap pour trouver le succès. S'adapter, persévérer, aller au combat, ce sont des choses que Laurent connaît bien après une jeunesse rythmée par le sport de haut niveau entre discipline, rigueur et entraînement quotidien. Quand il arrête le judo, Laurent a cette idée en tête de créer son entreprise. Il sera taxi pendant près de 10 ans, de nuit d'abord, puis spécialisé dans le transport de personnes en affection longue durée dans le cadre de taxi au féminin. Et puis c'est la tuile, il perd son permis, le sésame qui lui permet de gagner sa vie. Qu'à cela ne tienne, il l'avait dit, à 30 ans il arrêterait, et c'est contraint et forcé qu'il le fait. Rebondir, comme toujours, c'est le maître mot de son histoire, alors il se forme à l'entrepreneuriat avec l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, puis avec le programme Sport dans la ville en partenariat avec l'EM Lyon, cette école qui le faisait rêver. La belle histoire de Lyco commence alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Si t'es prêt?
Moi je suis prêt.
Moi je suis prête. Ok, eh ben, on peut commencer. Bonjour Laurent.
Bonjour Marjolaine.
Merci beaucoup de m'accueillir chez Lyco à Lyon pour nous parler de ta vie, de ton aventure entrepreneuriale et de ton entreprise. Tu le sais, on vient d'en discuter hors micro. Je pose toujours la même question traditionnelle pour démarrer tous mes épisodes de Slice. J'aurais aimé savoir ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit garçon.
Alors, quand j'étais petit, tu le sais, quand on arrive le premier jour à l'école, en CP, CE1, à l'époque, je ne sais pas, ça se fait toujours, mais on nous donnait un petit bout de papier, puis on nous demandait toujours nom, prénom, nom du parent.
Fiche d'information.
Effectivement. Ouais. Et je peux te l'assurer, mais déjà en CP, je disais patron.
Patron.
Je disais patron. Alors, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire.
D'accord.
Mais en fait, pour la petite anecdote, pourquoi je disais patron? Parce que mon papa, quand je lui demandais quelque chose, quand j'étais petit, me disait souvent, je suis désolé mon fils, j'ai pas d'argent, je suis pas riche. Et souvent, c'était un peu caricatural, mais on disait que c'était les patrons qui gagnaient bien leur vie. Donc moi, j'ai grandi avec cette idée-là de devenir patron sans.
D'avoir de l'argent et de pouvoir avoir ce que tu veux, en fait.
Exactement.
Derrière cette... Tes parents, ils faisaient quoi comme boulot
Mon papa était dans l'informatique, mais dans une ancienne génération d'informatique, pas informaticien comme on l'est aujourd'hui.
Oui, parce que tu as 35 ans, voilà.
J'ai 35 ans et ma maman était au foyer.
Maman s'occupait de toi.
Exactement.
Tu as des frères et sœurs?
J'ai des frères et sœurs, j'ai une grande sœur et un petit frère.
D'accord, donc elle s'occupait de vous. Ok, donc tu voulais être patron dès le CP.
C'est ça.
Bien. Comment tu mets les choses en place au primaire?
Au primaire, déjà, j'étais quelqu'un de plutôt bon à l'école. J'aimais ça, j'étais quelqu'un qui apprenait un peu plus vite que les autres.
Ok. Tant
mieux. Donc la primaire s'est bien passée.
Ouais.
Le collège, un peu moins.
Ok.
Parce que j'étais un peu influencé par des amis, par des copains. Alors,
d'accord.
J'étais un peu moins sérieux à l'école.
Ouais.
Et puis, je me suis trouvé une autre passion qui était le sport, le judo.
D'accord.
Où, à l'intérieur, je me suis voué corps et âme à cette passion-là. Et effectivement, j'ai mis un peu de côté mes études à partir du collège.
Et comment tu as commencé le judo? C'est à quel âge que tu as commencé le judo?
J'ai commencé à 7 ans. J'ai commencé, comme beaucoup de petits garçons, à faire du foot. Sauf que j'étais pas bon, faut être clair. J'étais tout le temps sur le terrain. Et donc j'avais froid. Et j'en discutais encore hier avec ma sœur. Effectivement, je demandais à ma sœur de me ramener à la maison. Et j'ai cherché l'année d'après un sport qui était couvert ou
au judo.
J'ai fait du judo et là, ça a été une révélation. Ça a été une
Donc toi, tu es lyonnais, tu as commencé le judo...
Je suis né à Saint-Priest, donc en banlieue, et j'ai commencé le judo à Saint-Priest.
Okay.
Et ensuite, j'étais dans un club un peu plus cossu pour faire de la compétition, parce que je suis un compétiteur.
Ouais.
Et donc, j'étais au judo club de Gerland pendant près de 15 ans.
D'accord, ok. Donc, tu mets de côté l'école, comme tu disais, pour suivre ta passion, mais concrètement, donc, tu fais le collège.
Je fais le collège,
okay.
Je rentre au lycée, mais dans une section particulière, dit sport-études.
Mm-hmm.
Donc on aménage...
Toujours à Lyon ?
Toujours à Lyon, dans un premier temps.
Okay.
Donc au lycée Frédéric Failly, c'est donc la structure s'appelait le Pôle Espoir, c'est des structures de la Fédération Française.
Okay.
Et donc je me suis entraîné 2 ans dans cette structure, et puis ensuite j'ai voulu encore évoluer, puisqu'elle est à un niveau supérieur, qu'on appelle le Pôle France, et cette fois-ci je suis parti de chez mes parents. Pour aller à Grenoble pendant 2 ans, avant le bac.
Avant le bac,
c'est
ça
a été vraiment toute ma période lycée. Fin de ma période lycée, forcément j'ai raté mon bac parce que je m'étais concentré à 100% sur le judo. Et puis l'école, je ne m'y retrouvais pas non plus. Enfin, c'était pas vraiment fait pour moi.
En fait, tu n'avais plus d'intérêt parce que vu que le primaire, ça se passait bien, peut-être tu avais perdu l'intérêt vu que tu t'étais trouvé quelque chose d'autre, de plus exaltant.
Exactement. Et puis voilà, on va dire que la plupart des profs n'ont jamais réussi à m'intéresser à l'école. J'étais un peu... Je trouvais pas je comprenais pas d'intérêt concret à ce qu'on apprenait sur le moment, et j'étais sûrement trop jeune parce qu'il y a certaines choses comme l'anglais où aujourd'hui je le regrette parce que je vois à quel point c'est important dans la vie. Et puis donc j'ai raté mon bac, je suis revenu à Lyon, donc j'ai arrêté un peu le judo, je l'ai mis de côté parce qu'il fallait quand même que je finisse un petit peu mes études, au moins avec un bac.
Ok. Et c'était vraiment l'objectif, tu voulais au moins le bac
J'étais en terminale,
mes
parents m'ont dit bon, c'est bien quand même que tu ailles jusqu'au bout, donc je suis revenu sur Lyon, au lycée La Cassagne, et j'ai eu mon bac cette fois-ci.
Filière générale ou t'avais...
Filière générale technologique plutôt, parce que c'était à l'époque le bac STT, sciences et technologies du tertiaire.
Ok. D'accord, donc tu as ton bac,
c'est ça.
Le judo alors c'est de côté, tu y retournes.
Judo j'ai un peu mis de côté effectivement parce que j'avais bien compris que malheureusement j'avais pas les qualités nécessaires pour devenir un grand champion de judo tant comme Teddy Riner.
Ouais.
Donc voilà, il fallait un moment gagner sa vie, manger et puis avoir d'autres projets, donc j'ai mis le judo de côté pour me consacrer un peu plus à l'école, le bac et ensuite la faculté, l'université. Qui a duré 3 semaines.
Parce que tu t'es dit quoi une fois que tu as ton bac? Tu t'es dit quelle étude comme ça dans la tête? Parce que tu as passé 3 semaines à l'université, mais dans quelle filière?
Alors, c'était une licence économie-gestion.
Ok.
J'y suis allé, c'était pas vraiment mon choix, parce que moi j'aurais plutôt préféré faire une école de commerce. Mes meilleurs amis étaient en école de commerce.
D'accord.
Et pour moi, c'était ce que je voulais faire, mais malheureusement. Ça coûtait beaucoup trop cher.
Ouais.
Prendre un prêt étudiant, c'était compliqué pour moi. Enfin, mes parents ne le voulaient pas et mes parents n'avaient malheureusement pas les moyens de pouvoir payer de ce type d'école.
Ouais.
Donc j'étais à l'université, ce qui était très bien pendant 3 semaines, mais ce côté un peu rebelle. En fait, j'avais des cours qui n'étaient pas obligatoires. Et j'étais hyper assidu.
Ouais.
Et le jour où on m'a dit que les cours devenaient obligatoires, bizarrement, je ne suis plus allé. Je sais pas si c'est mon côté un peu... je sais pas, mais je ne suis pas allé, et puis ça ne m'intéressait pas.
Oui, peut-être que c'était pas non plus, si ça t'avait passionné, peut-être que t'aurais...
Pas assez d'encadrement à l'université. En tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour ça.
Ouais.
Moi, j'avais besoin d'une école de commerce où on venait un peu plus m'encadrer.
Voilà, c'est ça, avec des tests réguliers qui te poussent à être assidu, etc. Ok, donc ça dure 3 semaines.
Ça dure 3 semaines.
Quand tu dis à tes parents, bon non, c'est pas pour moi, qu'est-ce qui se passe, comment ils réagissent?
Il l'avait senti. Il avait senti très sincèrement que les études, c'était pas non plus mon fort, j'avais d'autres ambitions. Donc j'ai commencé à travailler, à faire des petits boulots à droite, préparateur, livreur, des petits boulots qu'on peut avoir assez facilement en faisant d'intérim. Mais avec toujours cette idée en tête très lointaine de devenir un jour chef d'entreprise.
D'accord. Mais quand tu as un projet, en fait, là au début, j'imagine que quand tu arrêtes la fac... ça vient pas tout de suite, mais je veux dire, tu te dis que tu penses déjà à ton futur, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire?
Pas vraiment. Il y a eu une bonne période quand même où effectivement je me suis cherché, je voulais savoir ce que je voulais faire.
Tu sais pas où tu vas, ce que tu fais.
Exactement.
Et vu que tu avais fait autant de judo, parce que quand même, donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais sport et études, ça veut dire que tu t'entraînais combien d'heures par jour?
On s'entraînait au minimum 2 heures par jour, parfois 2 séances de 2 heures par jour.
Ah ouais, d'accord.
Et puis un week-end sur 2 en compétition, tournoi.
Donc c'est un rythme soutenu.
C'est un rythme très soutenu, mais ça me sert aujourd'hui dans ma vie, puisque ce rythme soutenu, en fait, je l'ai depuis mes 15 ans.
Ouais, ouais, donc, t'es un combattant, tu sais, tu sais te mettre au boulot, etc. Et t'as jamais pensé à devenir coach, professeur de judo?
J'y ai pensé, mais pas à temps plein. Je voulais le faire en plus de mon travail, parce que pour rester un peu dans ma passion, et puis j'aime bien aussi apprendre aux jeunes. J'ai d'ailleurs aidé
la transmission,
de temps en temps mon professeur de judo sur des entraînements pour les plus petits, donc j'aimais ça. J'y ai pensé à un certain moment, mais ça ne s'est pas fait parce qu'ensuite les choses se sont enchaînées pour moi et j'ai jamais vraiment eu le temps de... J'ai repris le judo un petit peu pendant
ouais.
le temps, mais voilà, pas à fond comme je l'étais avant.
Est-ce que tu as eu une cassure avec le judo quand tu t'es rendu compte que tu...
Un petit peu.
Pouvais pas être Teddy Riner. Bon, on n'est pas Teddy Riner qui veut, hein, quand même, là, c'est...
Non, mais quand je fais quelque chose, moi, je le fais toujours pour aller au plus haut. Et si j'y arrive pas, je considère que c'est un échec. Et effectivement, il y a eu une cassure. Pas tant avec le judo, mais plutôt avec le sport en général.
Ouais.
C'est-à-dire que le sport de haut niveau, c'est quand même beaucoup de souffrance. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de souffrance.
Et puis loin de tes parents, mine de rien.
Loin de mes parents.
Quand t'es jeune,
effectivement.
C'est vrai que quand on est ado au lycée, on a vite envie d'être adulte parce que ça, mes parents qui m'emmerdent, eh ben, je les verrai plus, je ferai ce que je veux. Mais bon, finalement...
C'est pas si facile, même si on passe quand même de très bons moments
à
l'internat.
Avec les copains.
Avec ses copains, c'était deux très belles années.
Mais quand même.
Effectivement, les parents,
il y a plein de choses qui changent en étant jeune, des... truc où s'adapter,
tout à fait. Mais ça m'a aussi permis de me sortir d'un milieu. J'ai grandi dans une banlieue, dans un quartier, et forcément c'est peut-être le moment où
tu vois autre chose.
J'ai vu autre chose, je suis allé dans un autre milieu et
j'étais
moins en bas de ma tour, quoi.
Ouais, ok. Bon, d'accord. Donc, tu as repris un petit peu le judo.
C'est ça, j'ai repris un peu le judo après, mais juste sans plus. Mais j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps à me faire du mal avec le sport.
Ouais.
Physiquement, ça a été très compliqué. Maintenant, ça va mieux. Mais effectivement, j'ai eu une cassure pendant un long moment. Et j'ai repris pas loin de mes 30 ans parce que je sentais que physiquement, ça commençait à être difficile et qu'il fallait un peu s'entretenir.
Ouais, s'entretenir. Et donc, comment tu trouves ta voix?
Comment je trouve ma voix? Alors,
après ces petits boulots, l'intérim, tout ça, comment tu décides de te lancer, parce que je sais qu'à 20 ans, tu deviens chef d'entreprise,
en fait,
tu montes ta boîte. Mais comment ça se passe?
Alors,
comment tu...
Deux choses. Le dernier travail, petit job que j'ai fait pendant longtemps, plus d'un an, a été la livraison.
Mm-hmm. Donc,
j'ai été livreur. Et puis, je me suis aperçu que conduire...
Indépendant
Non, salarié.
Salarié des livraisons, d'accord.
C'est ça. Et je me suis aperçu que j'aimais bien conduire. Que ce côté un peu seul dans son véhicule, sans avoir des gens autour de soi qui nous donnent des ordres.
Vraiment,
j'aimais bien. Et donc, je me suis dit, est-ce que je peux trouver un métier où je pourrais me mettre à mon compte, où je vais conduire, être dans ma voiture, parce que je suis quelqu'un quand même un peu solitaire. Et là, d'un coup, le déclic, je me dis, taxi.
Ok.
C'est un bon moyen, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent et d'investissement pour rentrer dans cette activité. C'est un moyen d'être entrepreneur, c'est son auto-entreprise, mais c'est aussi de l'entrepreneuriat. Donc, à 20 ans, je décide de passer la formation et le concours de taxi. Que je réussis.
Il y a une formation et un concours de taxi.
Un examen plus précisément, c'est pas un concours, c'est un examen effectivement.
Comment ça marche? Alors là, j'ai plein de questions parce que je ne connais absolument pas. Moi je sais que les taxis parisiens, tu as une espèce de gros licence hyper chère à payer, c'est pour ça qu'ils se plaignaient par rapport au VTC.
Ça c'est la licence administrative.
Administrative.
Mais avant de pouvoir acquérir
avoir ça,
il y a besoin de passer un examen.
Ok, un examen.
Qui vient te tester sur plusieurs sujets, notamment bien sûr. Connaître les rues de sa ville, savoir s'orienter dans la ville dans laquelle on va travailler. Encore aujourd'hui, malgré les GPS et toutes les applications qu'on connaît bien, encore aujourd'hui, les taxis en amont sont testés sur la capacité à prendre le bon chemin.
Sans GPS et tout ça.
Sans GPS. Et puis, forcément, sur de la réglementation, sur de la sécurité, parce que les taxis peuvent rencontrer des situations un peu compliquées. Sur tout un tas de sujets où c'est un niveau, peut-être pas un niveau bac, mais c'est un niveau bac pro, je dirais.
D'accord.
Que j'ai réussi. Effectivement à mes 20 ans
et
à 21 ans.
Et ça met combien de temps pour passer ce truc, pour faire cette formation?
6 mois à peu près.
6 mois, ok.
Entre
d'accord.
Le moment où vous inscrivez, le moment où vous passez l'examen, si vous l'avez du premier coup bien sûr, ça dure à peu près 6 mois.
Et vous étiez combien? Il y a une promo
une vingtaine de personnes.
L'examen, on te demande où est la rue
Alors il y a une première partie de l'examen qui est théorique où en fait effectivement on vous donne par exemple une carte, on vous dit quel est le nom de cette rue, quel est le nom de cette rue. Vous avez de l'examen théorique aussi sur de la réglementation, donc parce qu'une réglementation bien spécifique
des
taxis.
Sûr.
Et puis après, un deuxième examen, ou la pratique, où là, vous êtes avec une personne à la préfecture qui monte dans le véhicule avec vous. Vous tirez une adresse au sort et vous devez vous rendre à cette adresse avec le bon tarif du taxi, avec toute la réglementation qui va bien. Et vous devez leur faire un aller-retour à cette personne qui vous juge sur votre capacité de taxi.
Ok, Ok. Donc à 21 ans, tu réussis ce fameux examen.
C'est ça.
Donc tu es taxi, tu dois acheter à Lyon, il y a une licence à acheter.
Il y a une licence à acheter, mais on n'est pas obligé d'acheter la licence. Dans des grandes villes, vous pouvez louer la licence parce que vous avez certaines entreprises qui sont propriétaires de plusieurs licences.
D'accord,
ok. Dizaines, voire même centaines de licences. Et donc vous louez un peu comme votre fonds de commerce. Vous louez le fonds de commerce et vous lui donnez un loyer mensuel.
C'est très cher une licence de taxi de Lyon parce qu'à Paris, ils parlaient de 300 000 euros.
C'est ça, 200 000 et 300 000 euros. Alors ça fluctue, hein, je suis plus vraiment dans ce milieu-là, mais ça fluctue entre 200 et 300 000 euros. Et à Lyon, on doit être aujourd'hui pas loin des 100 000 euros la licence, tout à fait.
En fait, qu'est-ce qui justifie ce prix? Enfin, pourquoi? Enfin, après, c'est une question autre.
Alors, historiquement, c'était le droit de pouvoir transporter des personnes, puisque quand j'ai commencé, les VTC et Uber n'existaient pas.
Donc, oui,
la seule activité qui pouvait transporter des personnes, c'était les taxis. Aujourd'hui, par rapport à des VTC, ça leur apporte le droit d'être sur le marché du transport sanitaire.
Ah,
un VTC n'a pas le droit de transporter des gens malades, alors qu'un taxi a le droit de transporter des gens malades, et c'est une source de revenus assez conséquente.
Dans certains endroits, oui, c'est vrai,
exactement,
pour les taxis.
Exactement.
Ouais.
Ça leur donne le droit de prendre les voies de bus. Ce sont pas un mince avantage, surtout dans des grandes villes. Mais voilà, quand même...
D'accord. Donc, ce qui justifie... Ok, ouais.
Ça justifie encore un petit peu, moins qu'il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, ça justifie encore. Et puis, c'est les seuls à pouvoir prendre des personnes dans la rue, dites en maraudage, alors qu'un VTC, vous êtes obligé d'être sur commande et d'être réservé à l'avance.
Ok, d'accord. Donc, tu as ton examen, donc tu loues ta licence.
Exactement. Ma licence et ma voiture.
Et tu loues ta voiture et ta licence.
Exactement.
Et du coup, tu es auto-entrepreneur.
C'est ça.
Tu es chef d'entreprise.
Je suis chef d'entreprise de moi-même, mais je suis chef d'entreprise.
Donc, tu fais les démarches. Enfin, je sais maintenant, pour être auto-entrepreneur, c'est en ligne.
Alors, à l'époque, il n'y avait pas l'auto-entreprise, donc j'étais micro-entrepreneur.
Micro-entrepreneur,
Donc, voilà, j'étais micro-entrepreneur. C'est un comptable, parce que vous avez des sociétés de comptables dédiées au taxi, qui a créé cette société et qui m'a permis de démarrer mon activité le 1er décembre 2009, il me semble, 2008.
Ok, voilà. Et ça se passe bien, t'as aimé, ça a duré combien de temps?
Premier jour, je commence cette activité, alors je pensais avec beaucoup de chance parce que j'arrive un jour où il y a ce fameux salon sur Lyon qui est très connu qui s'appelle Polutech, qui est le salon à Lyon qui emmène beaucoup de personnes sur cette ville, et forcément tous les taxis me disaient t'as de la chance, tu vas passer deux jours formidables, t'auras des clients de partout, sauf que forcément j'étais débutant donc j'étais jamais au bon endroit et j'ai pas passé deux jours exceptionnels comme je l'avais connu, mais j'ai quand même tout de suite beaucoup aimé ce métier, l'alternance entre un peu de solitude, parce que quand vous êtes dans votre voiture, vous attendez le client, il y a un petit peu le côté solitaire, mais aussi ce contact avec les clients. Que j'ai toujours apprécié et donc j'ai tout de suite été en kiff avec ce métier.
Ok, et ça dure combien de temps toi? Parce que j'ai vu qu'à un moment tu crées Taxi au féminin.
Alors je ne crée pas seul Taxi au féminin, c'est une collaboratrice taxi qui crée dans un premier temps Taxi au féminin et je rejoins ce groupement.
Ça s'appelle comment?
Frédéric,
ok, on la salue. Je ne sais pas si ça existe encore.
Malheureusement ça n'existe plus.
D'accord.
Crée ce groupement avec son mari Salvatore.
D'accord.
Et puis au bout de quelques mois, il me demande de rejoindre le groupement parce que le groupement grandissait, que je rejoins, et donc on a fait grandir tous ensemble ce groupement pendant plusieurs années. Il y avait pendant un certain moment quand même 10 chauffeurs, voire 11 chauffeurs qui travaillaient avec nous à plein temps, donc c'était quand même un très beau groupement. Mais là, je change un peu de clientèle, puisque pendant longtemps, j'ai beaucoup travaillé la nuit, donc j'avais une clientèle de jeunes fêtards. Là, en passant sur du taxi au féminin, on va complètement faire du taxi sanitaire.
D'accord.
Je ne transporte plus des gens qui font la fête, mais des gens qui sortent des hôpitaux. Donc, ce n'est pas vraiment la même ambiance. Mais ça a apporté du sens à mon travail, ce que je ne trouvais pas les premières années.
D'accord. Donc, pendant combien de temps tu fais taxi de
taxi
de fêtard?
C'est ça. J'avais la chance d'être jeune, célibataire, et donc je pouvais le faire. Je travaille exclusivement la nuit, 7 jours sur 7, de 19h à 7h du matin.
La vache. Ah oui.
Mais ça ne me dérangeait pas. J'aimais ce rythme.
Ouais.
Mon papa a toujours travaillé de nuit, donc pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel. Et puis voilà, vous rencontrez des jeunes qui font la fête, c'est un peu plus fun
que
transporter des hommes d'affaires la journée.
Ouais, d'accord. Et quand est-ce que... Et donc tu décides vraiment, quand tu rentres dans Taxi au féminin, tu fais ce changement de nuit vers la journée du coup?
Complètement,
parce
que la nuit, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et ces inconvénients, c'est que parfois vous trouvez sur des gens un peu particuliers, qui peuvent même aller très loin. Les gens le savent, je me suis fait braquer deux fois.
Ah oui.
Donc c'est des choses pas très marrantes, et puis au bout d'un moment, le fait de voir aussi tout le temps la nuit, de pas croiser les gens, de vivre complètement décalé, j'étais pas en dépression, mais voilà, je sentais que ce rythme commençait à me peser.
Ça a duré combien de temps la nuit?
Ça a duré 3 ans.
Ah oui, quand même.
mais ce rythme me pesait, j'avais de plus en plus de mal. Et donc, un jour, j'ai commencé à chercher du travail sur des transports plutôt sanitaires et m'est venue à moi cette opportunité de rejoindre ce groupement Taxi au Féminin.
D'accord. Et donc, avec Taxi au Féminin, tu me disais, c'est plus sanitaire. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi le profil des gens que tu
t'es booké
à l'avance?
Très malade.
Ah ouais.
Malheureusement, des gens. Oui, je suis booké à l'avance.
D'accord.
En France, lorsque vous êtes très malade, vous avez ce qu'on appelle, vous êtes en affection de longue durée.
Ok.
Et lorsque vous êtes en affection de longue durée, tout le monde ne le sait pas, mais on prend en charge 100%, la sécurité sociale prend en charge 100% des transports entre votre domicile et l'hôpital ou votre médecin.
Ouais.
Et donc voilà, je ne transportais que des gens qui étaient en affection de longue durée, donc très malades, qui allaient se rendre pour des chimios, pour des, des dialyses, pour des contextes assez lourds. Avec une spécificité chez Taxi au Féminin, c'est qu'on était les seuls taxis à être équipés de sièges auto. Et donc on travaillait beaucoup avec les enfants, donc ça peut être encore plus lourd, des enfants très malades.
Ah oui.
Mais voilà, on avait cette spécificité de travailler beaucoup avec les enfants.
Ok, d'accord. Et ça dure combien de temps, Taxi au Féminin?
Ça dure 6 belles années.
Ouais.
6 belles années avec. Ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie.
Ouais.
Ça m'a permis de comprendre que nos petits problèmes du quotidien, en fait, ce n'étaient pas des problèmes. Quand vous prenez des enfants, je vais un peu casser l'ambiance,
mais ouais.
Quand vous prenez des enfants qui sortent de chimio et qui ont le sourire jusqu'aux oreilles et qui sont heureux parce qu'ils vont faire un barbecue le soir, vous vous dites, mais attendez, mon petit découvert de 500 € qui me fait stresser et qui me met en colère, en réalité, ce n'est pas du tout un problème. Et en fait, ben, depuis que j'ai fait ce métier, voilà, il y a beaucoup de choses qui me glissent dessus.
Ouais.
Et
que tu arrives à mettre lâcher prise, le fameux lâcher prise, prendre du recul et plus être focus sur un petit truc qui peut être totalement sans importance quand tu y réfléchis bien.
C'est ça. Okay. Et ce métier m'a apporté ça. J'ai rencontré des gens exceptionnels aussi, puisque vous rencontrez des gens assez âgés, avec une expérience. J'ai rencontré des chefs d'entreprise qui étaient en fin de vie, donc qui se livraient à moi, qui m'ont donné beaucoup de conseils. J'ai encore des conseils qui me résonnent aujourd'hui dans la tête de clients que j'ai eu dans la voiture. Donc ça a été vraiment 5 belles années qui m'ont apporté énormément dans la vie.
Et toi, en tant que toi qui voulais devenir patron, donc qui avait cette micro-entreprise, etc., est-ce que tu touchais au but de ce que tu voulais, ce que tu imaginais? Est-ce que ça marchait bien? Est-ce que ça t'allait, cette vie de patron, d'être ton propre patron, etc.?
Ça m'allait,
ouais.
Mais j'ai toujours un peu une sorte de plan de carrière dans ma tête. Et je voulais avoir des projets avec encore plus d'ambition.
Ouais.
Et je savais qu'un jour, en fait, que pour moi, le taxi était seulement un tremplin.
C'est un temps,
un tremplin qui me permettait d'acquérir de l'expérience et de pouvoir faire autre chose derrière.
Okay.
Donc je le savais, mon objectif c'était de dire à 30 ans j'arrêterai le taxi et je ferai autre chose. C'était
d'accord.
Assez.
Ok, d'accord. Déterminé, à 30 ans tu voulais arrêter. Ok.
J'ai arrêté.
Fais ce que
mais
je dis.
Pas comme je l'imaginais.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai perdu mon permis.
Ah!
Voilà.
Comment tu fais pour perdre ton permis?
Alors, je ne suis pas sérieux du tout et pendant des années, j'ai jamais été un délinquant de la route. Hein, mais voilà, quand vous êtes taxi, ça arrive de dépasser de temps en temps un peu les kilomètres, de faire des petites infractions. Et je n'ai pas été sérieux, je n'ai jamais suivi vraiment le nombre de points qui me restaient sur mon permis. Et un jour, j'ai eu la malchance d'apprendre que j'avais plus du tout de points et que donc mon permis était annulé, qu'il fallait que je le repasse. Et pour cela, il fallait que j'attende 6 mois. Donc là, tout s'est un peu écroulé, forcément, puisque...
Du jour au lendemain, tu l'apprends comme ça?
Je l'apprends comme ça.
Ah, waouh.
Très compliqué, forcément...
Et tu n'ouvrais pas ton courrier parce que tu reçois parfois ton décompte quand...
Non, j'étais quelqu'un pas très sérieux, j'étais encore jeune. Et c'est une des erreurs que j'ai fait, que je ne fais plus aujourd'hui. J'aime bien tous mes courriers.
C'est ça. Mais moi, je pars du principe que si je n'ouvre pas les courriers de la banque, ça n'existe pas.
C'est ça.
J'ai fait ça quand j'étais... plus jeune, hein, maintenant je ne le fais plus. Mais je disais non, mais ça n'existe pas, c'est pas un découvert vu que j'ai pas ouvert la lettre, je ne suis pas au courant.
C'est ça, c'est ce que j'ai voulu faire, mais
c'est ça,
malheureusement,
mais ça ne marche pas.
Au bout d'un moment, la réalité revient, et là la réalité était un peu dure. Donc j'ai stoppé du jour au lendemain mon activité de taxi.
Ah ouais, d'accord.
C'est compliqué parce que j'étais entrepreneur, donc qui dit entrepreneur, vous n'avez pas le droit au chômage.
Bah c'est ça.
Donc on se retrouve d'un métier où on gagnait quand même plutôt bien, je gagnais plutôt bien ma vie pour l'âge que j'avais.
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler
bien sûr, avec, je gagnais entre 3 et 4 000 euros net par mois quand même.
Alors, c'est bien. Enfin,
je faisais 90 heures par semaine,
oui.
Je faisais une semaine de vacances par an. Donc
ramener à l'heure, oui.
Mais j'étais un très gros bosseur, ce qui permettait quand même de bien gagner ma vie. Et là, du jour au lendemain, ben, vous n'avez plus du tout d'entrée, si c'est un RSA qui rentre. Et là, la vie devient un peu compliquée.
Ouais. D'accord. Donc, tu fais quoi le lendemain?
Le lendemain, j'essaye de trouver une solution à tout ça. Mais en réalité, la seule solution qu'il y a, c'est de repasser le permis ou en tout cas de...
Et t'as 6 mois d'attente pour le passer?
Ben, effectivement, il est annulé pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, vous avez le droit de repasser. Mais il faut repasser le code de la route. Oh. Et si vous dépassez un délai, il faut carrément repasser aussi la conduite derrière. Donc, ça peut être assez compliqué.
Ah oui, d'accord. Ok, donc tu sais que là, devant toi, tu as 6 mois où, dans tous les cas... ce qui fait ton métier, c'est pas possible.
Exactement.
Ah ouais, là t'as 30 ans ?
Là j'ai 30 ans.
Ah bah oui. Il fallait respecter le timing, monsieur.
c'est tout à fait ça. Et donc forcément, eh ben, il faut que je reprenne des petits travaux. Donc je vais travailler quelques semaines, faire de la mise en rayon chez Carrefour.
Ouais.
Bon, pas facile hein, quand vous avez un métier que vous aimez, que vous retrouvez.
Puis tu retombes, c'est comme un peu retomber.
Complètement.
Okay.
Donc un peu compliqué, mais en même temps ça vous permet aussi de vous remettre les pieds sur terre.
Ouais.
Et donc je m'ennuyais et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, et un jour j'ai eu une idée.
Ouais.
Enfin, j'avais déjà cette idée depuis très longtemps et je me suis dit si c'était le moment pour faire une formation et qui va te permettre de mettre cette idée en œuvre.
Retourner sur les bancs de l'école alors que l'école ne t'intéressait pas trop de base. Ok, qu'est-ce que tu voulais faire?
Je fais la formation qui est assez connue aujourd'hui qui s'appelle l'ADI.
Ouais.
Donc, c'est une association qui aide les jeunes plutôt de banlieue à travailler un projet, à y réfléchir, à le challenger. Et donc j'ai fait pendant 3 mois.
C'est de l'entrepreneuriat, c'est de l'aide à l'entrepreneuriat.
C'est de l'aide
à l'entrepreneuriat. Donc l'ADI,
c'est ça, ADIE.
Ok.
Il y en a partout en France.
Je mettrai le lien dans l'article qui te sera consacré si t'as pas intéressé
Mais tu peux parce que ça peut, c'est pas forcément connu de tout le monde et ça peut aider pas mal d'entrepreneurs. Je faisais cette formation, mais j'avais quand même en tête de dire un jour je reprendrai le taxi parce que j'ai besoin d'un peu de gagner de ma vie.
Oui.
Donc c'était pas vraiment très concret pour moi.
D'accord. Mais la formation, de toute façon, t'as 6 mois.
Je passais le temps en fait.
Oui, c'est d'accord. Mais c'est bien. Ça t'a apporté. Qu'est-ce que t'apprends dans cette formation du coup?
Eh ben, j'apprends à faire des prévisionnels financiers. J'apprends
c'est
à faire
mal,
des présentations. Hein. Ouais. Dans le monde de la start-up, on parle beaucoup de pitch, donc j'apprends à faire des
pitch. Le pitch, c'est un art.
Voilà, je rencontre d'autres entrepreneurs
ouais.
qui m'aident aussi un peu à challenger et à améliorer mon projet.
Ouais.
Et puis au bout de 3 mois, voilà, la formation se termine et j'avais encore du temps devant moi.
Mince, ça ne dure pas assez longtemps.
Non, malheureusement. Et donc je me dis, je vais refaire une autre formation qui est un peu plus poussée, un peu plus longue. Et puis j'avais toujours en tête cette fameuse école de commerce.
Ouais.
Que j'ai toujours voulu faire.
Okay.
Et un jour, je tombe sur un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville, qui est cofondé par Sport dans la ville, une très grosse association d'insertion en France, qui monte un programme en parallèle avec l'EM Lyon Business School.
Ah.
L'EM Lyon Business School, quand on est lyonnais, c'est.
Oui.
Voilà.
C'est,
quand j'étais petit, moi, on me disait que c'était l'élite qui allait dans cette école. Donc, je me suis dit, tiens, un moyen de faire une formation par l'EM Lyon Business School, un peu une petite revanche sur la ville.
Ouais.
Donc, je vais la faire. Et donc, j'ai passé le concours, j'ai été accepté. Et donc, nouveau programme de formation, d'accompagnement, plus précisément, qui a duré 6 mois.
Okay. Ah oui, donc là, ça dépasse le temps de...
Exactement.
de retourner au volant, on va dire.
Exactement.
Et donc là, en quoi consiste cette formation, en gros?
Un peu la même chose que ce que j'avais fait avec
l'ADI,
mais de
ouais.
manière forcément un peu plus poussée.
Ouais.
Parce que voilà, l'EM Lyon nous mettait à disposition des professeurs. Donc voilà, plus poussée. On m'apprend aussi à faire des pitchs et surtout à faire un business plan, ce fameux business plan d'une 50aine de pages qui fait peur à tous les entrepreneurs quand on se crée. On se dit, mais comment je vais faire ça?
Puis par quel bout tu le prends aussi?
Exactement. Ouais. Même si cet outil, c'est pas forcément la chose la plus utilisée par les banques et les entrepreneurs, mais on nous demande de le faire.
C'est ça.
Donc,
moi, j'ai même des entrepreneurs parfois dans certains épisodes, tu sais, qui n'y ont pas besoin. ça peut aussi marcher comme ça, mais c'est vrai que. Le business plan, c'est quand même un peu un incontournable, c'est vrai, quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat. Okay.
Et donc, voilà, ils m'ont accompagné pendant 3 mois à me former, à monter en compétences.
Et dans les locaux de l'EM Lyon, avec des étudiants de l'EM Lyon ou
effectivement.
C'est quoi le profil des gens qui ont participé à cette formation
Alors, Entrepreneurs dans la ville est vraiment un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais pour les jeunes issus QPV, donc quartier prioritaire de la ville.
D'accord.
Dont je faisais partie, puisque j'étais de Saint-Priest.
D'accord.
Et donc, ils accompagnent que des jeunes qui viennent de ces quartiers-là.
Ok. Avec des projets
Avec des projets de la personne qui veut monter son food truck
okay.
À la personne qui veut créer une boîte technologique et qui veut devenir numéro un mondial.
Donc, et vraiment, toi, tu leur... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, non, mais toi, tu leur présentes quoi comme projet que tu veux monter ?
Alors, je leur présente un projet qui est en fait ce qu'on fait aujourd'hui,
ouais.
mais qui a beaucoup, beaucoup évolué, qui s'appelait ouais. pas Lico à l'époque, on appelait ça Drivewoon.
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 Drivewoon, ok.
Voilà, exactement. Et donc, moi, l'idée, c'était quand j'étais taxi, j'ai toujours été assez sidéré par le prix que je faisais payer à mes clients à l'aéroport. Alors, moi, en tant que taxi, c'était super parce que ça m'apportait bien.
Oui.
Mais en tant que client, je me disais quand même, pour l'aéroport, entre 50 et 80 euros, c'est cher. L'aéroport n'est pas si loin que ça. Bon, vous avez le tram, mais qui n'est pas forcément le truc plus confortable.
Le
Rhône Express.
Ah oui, le Rhône Express.
À l'époque, il était très cher,
ouais.
qui l'est toujours encore un
oui,
peu.
Oui.
Mais voilà, dont les Lyonnais se plaignaient beaucoup, et pas que les Lyonnais.
Oui.
Et donc, on s'est dit, mais c'est bizarre, pourquoi Blablacar ne fait pas des trajets transport-aéroport ? Et on s'est aperçu, en fait, que Blablacar, effectivement, dans la tête des gens, c'était surtout pour du très long trajet.
Ouais.
Lyon-Marseille, Paris-Lyon... Et donc, on s'est dit, et si on montait une plateforme de covoiturage qui était dédiée à ces trajets aéroports ? Donc, c'était le projet que j'avais présenté et que je développais, en tout cas, intellectuellement, pendant ce programme de formation, effectivement.
Donc, tu développes ça, donc, programme entrepreneur dans la ville et EM Lyon.
Sauf qu'à un moment, il faut coder. Quand vous montez une boîte dans le digital,
oui.
et ben forcément, il faut coder la plateforme.
Ouais, c'est
et
sûr.
Moi, je ne suis pas du tout un codeur, mais un développeur. Ce que j'aime, c'est vendre, ce que j'aime, c'est développer, mais ce n'est pas du tout coder.
La relation et donc, client, les trucs voilà. comme ça, ouais.
Donc, ce qu'il fallait ensuite, après entreprenant dans la ville, c'est que je construise mon équipe, qui est pour moi la chose la plus importante en amont de développer cette boîte, parce que je pars du principe que lorsque vous montez une boîte, vous mettez un 200%
ouais.
et que c'est quand même dommage d'échouer si vous ne choisissez pas les bonnes personnes qui vous entourent.
T'as envisagé de te former au code ?
Ça a duré 10 secondes. À partir du moment où j'ai commencé à regarder les formations, j'ai compris du tout que j'étais pas fait pour ce métier-là.
Il y a l'université en ligne, MOOC.
Oui, MOOC, Open Classroom.
J'ai essayé, voilà c'est ça, moi j'ai essayé parce que mon mari est développeur. Programmeur, développeur, je me suis dit, je vais apprendre comme ça, je vais l'ébahir avec mes talents. Je crois que j'ai fait 2 leçons de Python et vraiment, j'ai cru que j'allais crever. Tellement, c'est pas logique pour moi dans ma tête. C'est vraiment un truc, j'ai laissé tomber lâchement les cours. Ah non, mais horrible!
Je te rassure, ça va être exactement la même chose. Et je pense que voilà, ce que j'aime bien dire, c'est chacun son métier.
Voilà, c'est ça.
J'ai vite compris que j'étais pas fait pour coder, que j'avais droit dans le mur si c'était moi qui codais, et que j'aurais jamais de plateforme. Donc je me suis dit,
ça ressemble à rien.
Je me suis dit qu'il était quand même mieux de trouver des
associés, trouver les bonnes personnes.
Les bonnes personnes, les bons collaborateurs qui viendraient m'aider à créer cette boîte et à mettre notre première plateforme en ligne.
Donc en fait, tu cherches des co-founders.
Je cherche des co-founders, exactement.
Comment on trouve des co-founders ?
Alors déjà, il faut mettre beaucoup d'énergie, il faut aller rencontrer dans des salons.
Tu mets une petite annonce
Une petite annonce sur LinkedIn. Et le premier co-fondateur que je rencontre est donc Yacine, qui est encore mon associé actuel.
Donc Yacine Belharbi.
Exactement, ouais. Yacine Belharbi, donc qui lui est un codeur.
Ouais.
Donc j'étais dans l'espace qu'on nous met à disposition chez Sport dans la Ville.
Pour,
voilà, après la formation. Et un jour, je vois une bande de jeunes qui discutaient de code informatique.
Okay.
Et je me suis dit, cherche des codeurs, ils sont 10 mètres de moi.
Je ne comprends rien,
là.
C'est eux.
Ils sont là. Et donc, je vais voir ces jeunes. Et donc, je leur dis, voilà, je cherche un associé qui a quand même une certaine expérience dans le code informatique, qui peut m'aider à développer ma plateforme.
Puis, il faut le convaincre aussi que la plateforme, exactement. C'est quelque chose qui va marcher,
exactement.
Etc.
Exactement.
Est-ce que tu lui demandais de mettre des billes ou juste son talent ?
Juste son talent.
Juste son talent, d'accord.
Effectivement. Et donc je leur dis, voilà, j'ai quand même besoin de quelqu'un qui sache faire dans le langage informatique. On parle de front-end,
ouais.
C'est l'application, c'est ce que vous voyez, l'interface,
ouais.
Et le back-end qui sont en fait le moteur,
ouais.
Et donc je lui dis, par contre, j'ai besoin de quelqu'un qui sache faire et du front-end et du back-end. Et là, ouais. Tous ces jeunes me regardent, me disent, ne cherche pas, on sait à qui tu dois t'adresser. C'est à Yacine Belharbi.
Ok.
Donc je me suis dit, il n'était pas là malheureusement. Donc je leur ai dit, bah, donnez-moi son numéro. Et donc j'ai rencontré Yacine Belharbi quelques semaines plus tard,
ouais.
Qui lui était en poste dans une entreprise. Donc il était déjà développeur, il venait de sortir de ses études. Il était déjà développeur, mais malheureusement et heureusement pour moi, sa boîte était en train de faire faillite.
Ah, ouais.
Donc il avait travaillé depuis un an et demi là-bas. Et donc ben, il fallait qu'il trouve quelque chose,
ouais.
d'autre. Et je suis tombé pile poil au bon moment, puisque je lui dis, bah, écoute, moi ce que je t'offre, c'est une expérience entrepreneuriale,
ouais.
une belle aventure professionnelle mais humaine. Par contre, petite chose, on n'a pas d'argent.
Oh, c'est en détail.
Effectivement. Et donc, je lui dis, on n'a pas d'argent, par contre, on a beaucoup d'ambition,
ouais.
Et on va créer une entreprise. Et moi, donc, ce que je te propose, c'est de travailler gratuitement pendant quelques temps pour nous.
Ah oui.
Et en contrepartie, ben, je te rémunère avec une part de l'entreprise et tu deviens un associé cofondateur de l'ICO. Chose qu'il a acceptée immédiatement.
Ah ouais ?
Immédiatement, parce que voilà, il avait du temps devant lui, il était très jeune,
oui,
il
n'avait
pas de femme et pas d'enfant. Je pense qu'il a compris que c'était le bon moment pour lui de progresser aussi.
Mm-hmm.
Donc voilà, on s'est lancé avec Yacine Belarbi, mais malheureusement, enfin, heureusement et malheureusement, il n'avait pas l'expérience, il n'avait pas les 10 années d'expérience qui nous permettaient d'aller très vite, aussi vite qu'on le voulait.
Ok, d'accord.
Donc à un moment, il m'a dit, Laurent, il a été très honnête, il m'a dit, moi je suis capable de développer la plateforme en partie, mais voilà, ça serait bien
qu'on trouve quelqu'un. Il y a des têtes briques, des choses, il y a besoin de plus de, voilà.
Exactement, il m'a dit, ça serait bien qu'on trouve quelqu'un qui ait plus d'expérience. Et donc, je me suis mis à la recherche et là, j'ai envoyé environ 5000 messages sur LinkedIn à tous les développeurs de Lyon. Donc, dans la barre de recherche, j'ai tapé « développeur » et j'ai envoyé 5000 messages qui présentaient mon projet et m'expliquant que je cherchais un directeur technique.
Ok.
Dizaines m'ont répondu.
10 sur
oui,
tout ça.
Oui, parce que les développeurs, c'est des gens qui ont du travail aujourd'hui.
Ouais,
ils
ne
sont pas à la recherche, ils ont la sécurité de l'emploi.
Donc, c'est vrai, d'ailleurs, ouais, je suis jalouse. Quand je vois mon mec, genre « ah oui, je pars, c'est bon, j'ai déjà trouvé mon poste là ». Mais mec, comment ?
Exactement.
Scandaleux.
Donc voilà, après, je les comprends. La plupart voulaient rester dans leur job. Et il y en a quand même 10 qui m'ont répondu.
Ouais.
5 avec lesquels on a commencé à échanger. Mais 1 avec lequel ça a matché au bout de quelques secondes.
Ouais.
Et on s'est dit, bah voilà, c'est lui. Et donc, c'est donc Adrien quoi, qui nous a rejoint quelques semaines après que Cassine nous rejoigne. Hein, tout ça était assez court. Et donc, en avril 2018, Adrien Hugon rejoint l'équipe en tant qu'aussi cofondateur, parce que j'avais toujours pas d'argent. En tant que cofondateur.
Déjà, il faut monter la plateforme et tout ça pour après espérer gagner quelque chose. C'est sûr, ça se comprend.
Exactement.
Mais tu pensais déjà à faire des prêts, enfin, tu t'es renseigné, genre comment on finance, les aides qui sont disponibles pour la création d'entreprise, vu que tu es entouré, que tu fais cette formation, je crois que tu avais l'information non à disposition. Qu'est-ce
tout
que tu envisageais pour,
tout à fait.
Pour développer tout ça et bon, manger un petit peu peut-être à côté ?
Bien sûr, alors on pensait aux prêts, mais bon, il y a quelque chose que je peux dire aujourd'hui que je ne pouvais pas dire à l'époque.
Ouais.
Mais ma difficulté quand j'ai perdu mon permis, et ben, j'avais pris des crédits et je me suis retrouvé en très grande difficulté financière.
Okay.
Et
ouais.
Je ne pouvais pas le dire parce que j'aurais perdu de la crédibilité.
Ouais.
Mais à l'époque, j'étais interdit bancaire. Quand je le dis aujourd'hui, les gens me regardent avec des yeux et me disent « mais comment t'as fait quoi ?» Mais j'étais interdit bancaire, donc c'était même pas la peine de penser à des prêts ou quoi que ce soit. Il fallait que je finance.
Ah oui, mais interdit bancaire, c'est genre t'as plus de moyens de paiement.
Ah bah t'as droit à un compte avec une carte bleue que les étudiants, tu sais, souvent ont, les cartes Maestro.
Oui, Electron, là, je sais pas quoi.
Electron, exactement. Bah, plus possibilité de faire de prêt. Enfin voilà, très compliqué financièrement.
D'accord, ouais, c'est...
Donc voilà, les prêts n'étaient pas possibles. Donc voilà, notre seul moyen, c'était de développer une plateforme rapidement, de le mettre en ligne.
Que ça marche et comme ça, tu gagnes de l'argent comme ça, juste en prouvant que ça marche, ce que tu veux faire.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc, ça t'oblige à taper dedans, quoi. Je veux dire, là, t'as pas le temps de prendre le temps, quoi.
Voilà, t'as tout compris.
Okay.
Et donc là, heureusement, je suis tombé sur mes deux associés cofondateurs qui ont tapé
L'équipe
dedans.
De choc.
Complètement, qui ont tapé dedans pendant plusieurs mois.
T'as une bonne étoile, enfin, il y a un truc qui s'est allumé.
Ah,
je sais pas si on est croyant ou pour ceux qui sont pas croyants, mais
c'est ce que
les planètes se sont alignées.
Certains diront que c'est le destin, d'autres
ouais.
la chance et d'autres le karma. Ça
ouais.
dépend comment on se positionne, mais effectivement, les étoiles se sont toutes bien alignées. J'ai rencontré des gens qui, humainement, me correspondent en tout point et qui, en plus professionnellement.
C'était ta première expérience de patron recruteur.
Exactement.
Parce que, tu sais, quand tu montes une entreprise et que tu dis comment je recrute. Quels sont tes critères pour recruter quelqu'un? C'est toujours compliqué, c'est quand on se lance et que quand t'es patron en plus d'une start-up, d'une petite entreprise et que t'as pas de dirigeant RH qui va faire ça pour toi, c'est compliqué de...
C'est compliqué, on improvise, on le fait à notre manière, à notre ressenti. Il faut toujours avoir un peu de chance aussi.
Ouais.
C'est que voilà, je suis tombé sur les bonnes personnes qui m'ont convaincu tout de suite, que j'ai réussi à convaincre aussi.
Ouais, aussi, oui. Mais les deux sens, ouais.
Et puis, qui ont travaillé très dur pendant plusieurs mois, jour et nuit, pour pouvoir mettre le plus vite en cette plateforme en place, okay, parce qu'on était au mois d'avril, et notre idée, c'est de dire les trajets seront plutôt l'été. Ouais. Donc, il faut absolument que cette plateforme soit lancée le 1er juillet. Donc là, le décompte était lancé et il fallait que la plateforme soit prête pour le 1er juillet 2018.
Ok. Et donc, tu as monté l'entreprise en parallèle, elle existait.
On a créé l'entreprise quelques jours avant de lancer la plateforme. Au départ, on faisait ça un peu... de manière artisanale, dans le bureau, on n'avait pas d'entité juridique. Okay. Et donc, le 1er juillet, le 27 juin, on crée l'entreprise administrativement. Okay. Et le 1er juillet, commercialement, on lance la plateforme sur Internet.
Ok. Et donc, alors, comment on lance ? Enfin, c'est facile de mettre en ligne une plateforme. Je vois à peu près comment on fait, mais la pub, convaincre les gens, utiliser notre plateforme, c'est génial. On va révolutionner, enfin, tout ça.
Exactement, beaucoup de communication.
Comment tu fais ? Directement en amont, tu avais lancé...
Bien sûr, on avait déjà, depuis mon entrée chez Sport dans la Ville, j'avais commencé à communiquer sur ce projet-là. Donc, il y avait une petite communauté et puis on était sur un sujet... où il est assez simple de faire parler de nous parce que le Rhône Express a toujours été un sujet qui faisait parler et donc beaucoup de médias, notamment le 20 minutes, s'est intéressé à ce qu'on faisait et a propulsé notre communication d'une manière assez phénoménale parce que on était sur le sujet, tout le monde attendait, on nous attendait un peu comme le Messie, quoi. Est-ce que Lico arrive ? Enfin, Drivewood à l'époque.
Drivewood,
non, Lico, on avait changé de nom d'ailleurs. Quand on a lancé, c'était Lico.
Et du coup, alors, attends, parlons des noms. J'aime bien savoir pourquoi Drivewood à la base.
Brainstorming, on cherchait un nom, puis celui-là nous plaisait bien. Drivewood, on trouvait qu'il était sympa.
Ok.
Donc, pas d'histoire particulière, sauf que à l'EM Lyon, on me dit Drivewood, très bien, mais ça fait un peu gentillet. Enfin, ils n'aimaient pas le nom. Ils aimaient pas le nom, ils voulaient un truc un peu plus tech, un peu plus. Et donc, on a changé de nom avant de lancer le projet, en fait, on est passé de Drivewood à Lico.
Et Lico, pourquoi il y a quelque chose L-Y-K-O, du coup ? Est-ce qu'il y a quelque chose
des acronymes ? Quand on a lancé la plateforme...
Laurent, Yacine ?
Non, même pas.
Même pas.
Non, non. Quand on a lancé la plateforme, donc on faisait du covoiturage, mais on le faisait d'une manière assez particulière, on faisait sous forme de ligne de bus. Donc
d'accord.
On créait des lignes avec des arrêts et ensuite la personne passait récupérer donc vraiment des lignes de covoiturage et donc c'est le diminutif de ligne de covoiturage, LICO, qu'on a transformé avec un K pour faire ça un peu plus moderne.
Ah ouais,
un peu plus
d'accord,
tech.
Ouais.
Voilà, donc, donc voilà comment on est devenu, qu'on a changé de nom, qu'on est devenu LICO et qu'on a lancé la plateforme le 1er juillet en s'appelant LICO.
Et ça marche bien ?
Et ça marche pas du tout.
Pardon, c'est pas drôle.
Ah non.
Mais comment tu le dis, c'est un peu genre
c'est ce que je dis aujourd'hui avec les entrepreneurs. En amont de lancer un projet, on interroge souvent beaucoup de monde et nous on nous disait 99 personnes sur 100 nous disaient votre service il va être génial, dès qu'il va lancer ça va rééchaîner, je serai client, vous inquiétez pas. Enfin voilà, pour nous, on était déjà...
C'est bon, c'est oui.
On était déjà blablacar, quoi. J'en abuse un peu, mais voilà. On avait beaucoup de confiance en notre produit. Sauf que là, catastrophe, pendant 25 jours, on vend pas un trajet. Et en fait, on se rend compte que...
Et t'as aucun inscrit, aucun...
Très, très peu. Alors, pour deux raisons. C'est que la première, déjà, quelqu'un qui vous dit qu'il paiera votre service... psychologiquement, quand vous lui demandez de sortir une carte bleue sur un site internet, le frein psychologique est beaucoup plus compliqué à débloquer que ce qu'on vous dit en fait, oui je vais payer, mais dans les faits quand il faut sortir la carte bleue c'est beaucoup plus complexe. Et ça je le dis à tous les entrepreneurs parce que souvent les entrepreneurs le ressentent pas comme ça. Et la deuxième raison, c'est qu'on travaillait donc sur un projet dit C2C, consumer sur consumer. Et donc, il y a un gros défi à relever quand vous montez cette plateforme, c'est que c'est bien d'avoir des personnes qui veulent acheter des trajets. Faut-il encore avoir des conducteurs qui viennent déposer des trajets ?
C'est ça.
Et donc, on fait face à la problématique dite de la masse critique. Et donc là, arriver à aller chercher un nombre de conducteurs assez important pour pas qu'il y ait un côté déception du passager qui puisse venir...
Qui va attendre.
Exactement, ou qui ne trouvera jamais son trajet parce que personne ne va venir proposer un trajet à cette heure-là. Et donc, on avait quelques demandes, mais en face, on n'avait jamais l'offre. Et il ne faut pas se leurrer, il y a très peu de plateformes qui sont arrivées à atteindre ces masses critiques. Sur le covoiturage, aujourd'hui, il n'y en a qu'une, et elle s'appelle Blablacar.
Ouais.
Et c'est très, très, très complexe à mettre en œuvre. Et nous, très sincèrement, on n'y est pas arrivé.
D'accord.
On n'y est pas arrivé, donc on a commencé à réfléchir à des solutions sur comment on pouvait apporter...
Comment tu gères le... Parce que j'imagine que c'est un peu peut-être une claque-claque dans la tête.
C'est
une
grosse claque que vous prenez dans la tête.
Et donc, tous les trois, ou toi-même à titre personnel, comment... Bon, après, c'est 25 jours, parce que tu parlais de 25 jours sans rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête que...
Alors déjà, ben, moi, en tant que leader, ouais. Je vais pas dire patron, ouais. En tant que leader, je me devais déjà de garder la tête haute,
ouais.
De rester optimiste et ouais. De surtout de ne pas avoir l'ego de certains entrepreneurs et de se dire « je me suis planté, on n'est pas allé dans la bonne direction ». Et c'est pas facile à le dire parce que souvent les entrepreneurs, c'est là qu'il y a un problème en général. C'est qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison et ils continuent.
Ouais, ils s'obstinent.
Ils s'obstinent.
C'est ça. Il y a eu un épisode avec Xavier Omerin qui est sorti sur Slice et qui disait pour des chefs d'entreprise, faire des erreurs, c'est normal, ça arrive. C'est persévérer dans l'erreur qui est un crime.
C'est ça. On parle souvent de détermination, mais il faut bien différencier la détermination et l'obstination.
C'est ça.
Je pense que l'intelligence d'un entrepreneur, c'est aussi de savoir se dire à un moment quand les choses se passent mal,
j'ai merdé. Il faut arrêter des erreurs, les frais.
Il faut trouver une solution.
Et changer de cap.
Analyser, comprendre d'où on a fait l'erreur et ensuite trouver surtout une solution.
T'en parles avec peut-être tes formateurs de l'UM Lyon pour
pas trop.
Ou c'est quelqu'un qui t'aide à. Attends, on va analyser, ou peut-être avec tes co-founders, pourquoi on analyse froidement. Où est-ce que ça a pêché ?
Avec l'écosystème, on n'en a pas trop parlé ouais. parce que vous pouvez vite être mis dans la case de l'entreprise qui ne marche pas et qui ouais. va se planter. Et on ne voulait pas vraiment qu'on soit perçu, ouais. perçu comme ça. Donc au départ, on n'en a pas trop parlé. On a surtout réfléchi entre nous quelle solution on devait apporter pour améliorer cette plateforme okay. et en développer un projet qui soit viable.
Okay.
Donc voilà, gros brainstorming pendant des jours et des jours.
Ça prend combien de temps, ça, cette espèce de trouver l'idée qui
va... Ça a duré un mois et demi. Après, l'idée n'était pas révolutionnaire. Hein. Ce qu'on s'est dit, c'est tout simplement, on n'arrive pas à apporter des services de covoiturage parce que voilà, on n'arrive pas à aller chercher ses conducteurs. On va venir connecter sur notre plateforme d'autres modes de transport qui sont peut-être un peu moins économiques, mais dont on est certain de pouvoir apporter l'offre. Par exemple, venir connecter notre plateforme à une société de VTC,
ouais.
où là, il nous suffisait de faire une commande et quoi qu'il arrive, on savait qu'on allait avoir un chauffeur. Une solution de stationnement, une solution de navette. Donc, on a commencé à trouver des partenaires sur d'autres modes de transport
okay.
et de venir connecter notre plateforme via ce qu'on appelle aujourd'hui des API,
ouais.
donc des interfaces pour venir connecter ces modes de transport et permettre à nos clients de pouvoir réserver n'importe quel mode de transport sur une seule et même plateforme.
Okay.
Donc, on est devenu une plateforme de transport multimodal dédiée au transfert aéroport. Donc, ça s'est opéré en octobre 2018.
Ok, oui, donc tu as lancé 1er juillet 2018, octobre 2018, tu as déjà cette idée, transport intermodal, quel que soit le transport, mais toujours du côté aéroport.
Toujours vous êtes du côté aéroport et toujours sur un projet de B2C grand public.
D'accord, ok. Mais on en a parlé, tu n'as pas d'argent ?
J'ai toujours pas d'argent.
Tu fais quoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut manger, il faut
être résilient.
Ouais, il faut quand même vivre.
Il faut travailler, moi j'ai travaillé... la nuit, hein. j'ai repris mon job de VTC, ouais. pas taxi, mais je suis devenu VTC. Hein.
Ah ouais, pour
les amis taxis m'ont diront que j'ai été un peu un traître. J'ai été du côté des...
Scandale non.
Mais bon, ouais, même si tout n'est pas parfait chez Uber et ouais. Chez Frino et chez d'autres applications, ouais. Je trouve que c'est quand même un bon moyen et ça m'a permis, moi, de pouvoir aller travailler très rapidement et d'aller chercher de l'argent pour pouvoir manger et développer mon projet.
Tu dois passer aussi un...
Non, parce que vu que je suis taxi,
vu que t'avais coup,
effectivement, ça me permet de faire VTC.
Tu pouvais rapidement exactement. Reprendre le...
Exactement. Et j'avais déjà mon véhicule de taxi que j'avais gardé. Donc voilà, j'ai juste téléchargé l'application, envoyé mes papiers Uber. Et en quelques jours, j'ai pu travailler.
Ah ouais. Quelques jours. Ah ouais, donc c'est...
Oui, ouais, ça a été très rapide.
Ça soulage quoi quand tu cherches vraiment une solution pour vite t'en sortir et trouver une source de revenus. C'est...
Exactement.
Voilà, d'accord.
Donc... J'ai fait Uber pendant plusieurs semaines, même mois, la nuit. J'ai aussi travaillé, je distribuais des prospectus pour Mediapost. Donc, vous savez, des publicités que vous recevez, bah, vous avez des gens qui les distribuent forcément.
Ah ouais, et moi, qui viennent voilà, bourrer dans nos... C'est ça. Bah, super, bravo, mais, monsieur.
Mais c'est un métier où tu es assez libre, on te donne tes prospectus, tu peux t'organiser comme tu veux. Donc, moi, c'était assez flexible et c'est ce que je cherchais. Donc, en fait, mon rythme, c'était travailler la journée entre midi et deux. J'avais distribué mes prospectus et le soir, j'avais fait mon VTC jusqu'à 3-4 heures du matin pour pouvoir dormir un petit peu, me lever le lendemain.
Donc, et bosser sur l'ICO et sur le changement de cap de l'ICO. Ok, donc là tu choisis de faire appel à des partenaires pour proposer leur. Pour avoir de la. Non, j'ai perdu le mot.
Pour avoir des services.
Oui, avoir le service déjà qui est là pour exactement. Le proposer aux gens qui se connecteraient sur la plateforme. Comment tu démarches ces gens-là? Parce que c'est un autre métier maintenant.
Exactement.
C'est autre chose.
des mails assez classiques.
Okay.
En leur faisant comprendre qu'on était la future grande plateforme qui allait leur permettre de gagner plein d'argent.
Ouais, ça, voilà, et puis comme ça, tout le monde se met... Exactement. En gros, le principe, c'est que moi, je décide d'aller, je sais pas moi, à Marseille. Je peux, sur l'application, ta plateforme, réserver et le VTC qui va m'amener jusqu'à l'aéroport de Lyon, et puis bah, mon vol qui va m'amener jusqu'à...
Alors non, je faisais pas le vol.
Pas encore
vol. On faisait... Enfin, on a jamais... On fait d'ailleurs toujours pas le vol. Donc, vraiment pas... que du transport terrestre.
Que du transport terrestre.
Donc, c'était de
Donc, le train qui m'amène de Saint-Etienne à Lyon.
Exactement.
Et puis, le VTC qui m'amène de Lyon à l'aéroport. Puis, quand j'arrive à Marseille, le VTC qui va m'amener dans le Vieux-Port pour aller manger ma bouillabaisse.
C'est ça.
En gros.
Voilà. Non, mais c'est exactement
c'est
ça.
C'est ça.
C'est tout
D'accord.
à fait ça.
OK.
Et donc, on lance ça. Ça marche un peu mieux.
C'est qui ton premier? Qui te répond? Parce que tu as besoin de convaincre des gens.
Notre partenaire, c'est un acteur connu encore aujourd'hui qui s'appelle Le Cab, qui était l'application de VTC historique de la SNCF, qui a été vendue depuis, qui n'appartient plus à SNCF. Mais c'est Le Cab, le premier partenaire, qui a accepté de venir se connecter à notre plateforme. Ensuite, on a travaillé avec une entreprise locale qui, il me semble, existe encore, qui s'appelle Navette Lyon, qui faisait des services de navette pas chers pour aller à l'aéroport.
Okay.
Donc, on a travaillé avec aussi une société de stationnement qui nous permettait de faire de la réservation de parking via notre plateforme. Donc voilà, ça a été les trois premiers partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de développer cette plateforme multimodale.
Et quand est-ce que les gens commencent à se connecter? Enfin, tu vois, le changement, tu le vois rapidement ou ça a mis quand même quelques temps
à... Ça a mis du temps, mais en réalité, cette plateforme n'a pas été une réussite encore une fois. Ça a été encore un demi-échec.
Okay.
Sauf que ça nous a amené à rencontrer un partenaire que tout le monde connaît qui s'appelle Air France. Forcément,
un petit acteur comme ça du transport aérien.
Petite TPE.
Voilà, c'est ça. C'est pas grand chose. Hein.
Effectivement, donc on voulait créer un partenariat assez classique, hein, commercial pour nous. Ça faisait,
tu leur as écrit un mail
J'ai écrit un mail à un monsieur qui s'appelle Bruno Duval, que je remercie encore tous les jours, qui m'a reçu à Paris. Donc on lui a présenté notre projet. Et ce monsieur était très cash, nous a dit: bon, votre plateforme grand public pour les transports aéroports, bravo, c'est très bien, les gars. Par contre, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la technologie et le moteur que vous avez développé pour votre application, qui permet en fait d'agréger plein de modes de transport sur une seule et même application.
Ah.
Et donc c'est là qu'on a compris, notre vrai travail était de permettre à nos clients, donc des entreprises, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, des entreprises, à utiliser nos technologies qui agrègent plein de modes de transport et de venir la connecter à leur propre application pour distribuer toutes ces offres de transport. Donc on a fait ce qu'on appelle dans le langage startup un pivot.
D'accord.
Pour aller sur une boîte pure B2B, donc business to business. Nos clients sont soit des entreprises, soit des acteurs publics. Et on fournit notre technologie d'agrégation de solutions de mobilité pour leur propre application.
Donc, c'est-à-dire que si je me connecte sur Air France, je vais pouvoir trouver toutes ces offres de transport via cette plateforme où je peux tout payer directement là-dessus?
Alors, on n'a pas travaillé avec Air France directement, on a travaillé avec une de ses filiales qui s'appelle June.
June,
qui malheureusement n'existe
June.
Plus. Ça a été notre premier client, mais malheureusement, cette compagnie n'existe plus. Donc, effectivement, vous téléchargez l'application June, YouJune exactement, elle s'appelait. Et donc, ça vous permettait, en fait, leur idée, leur constat de base, c'était de dire que 75% des personnes qui montent dans un avion n'avaient pas réservé leur transfert à l'arrivée.
Ouais.
Et donc, vous le savez, de plus en plus, les avions sont connectés à Internet aujourd'hui. Et donc, là où pendant des années, vous étiez simplement un consommateur de contenu, de vidéos, de musique, vous devenez des vrais consommateurs et vous pouvez maintenant donc acheter des services directement de votre siège dans l'avion via des applications. Et c'est ce qu'a voulu faire June. Donc, de votre siège, vous vous rendiez sur Charles de Gaulle, vous pouviez regarder les meilleurs modes de transport qu'il y avait à l'arrivée, les réserver et les payer. Personne ne le savait, mais la technologie qui était derrière était la nôtre.
C'était l'ICO derrière.
Exactement.
D'accord. Donc, on peut dire que c'est June, donc Air France, qui vous met le pied à l'étrier.
Complètement. C'est pour ça que je remercie Bruno Duval, parce que c'est vraiment le monsieur, cette personne qui nous a fait confiance, parce que quand on est une petite start-up et qu'on s'appelle en France, il faut avoir le courage de faire confiance à cette petite start-up. Et lui, il l'a fait. Et nous a permis effectivement de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir présenter et montrer ce qu'on était capable de faire.
D'accord. Et ensuite, comment se fait, j'imagine qu'une fois que tu as compris quelle va devenir ton cœur de métier, comment on fait après? Tu vas t'adresser à, je ne sais pas moi, la SNCF ou d'autres, ou à des villes qui pourront, par exemple sur le site de la ville de Lyon, où je peux voir toutes les solutions de transport que me propose la ville, les trottinettes, les vélos, etc., etc. Mais comment tu... Maintenant, c'est ces gens-là que tu vas démarcher
en partie.
Et c'est où on vient te chercher.
Alors, on a un peu de chance. Aujourd'hui, on vient quand même beaucoup nous chercher.
Ok,
parce
maintenant,
on on a fait beaucoup de bruit avec certains contrats.
Ouais.
Donc on est considéré comme une entreprise crédible et très innovante. Donc forcément, on a beaucoup de personnes qui nous contactent et comme on dit, on a des prospects entrants, mais on fait aussi de la prospection.
Ouais.
Mais la première des choses, c'est de pouvoir faire grandir nos offres de partenaires de transport. Parce qu'avec trois modes de transport, on ne couvrait pas tout et on couvrait encore moins géographiquement une zone ouais. importante. Donc le premier défi était de convaincre des centaines et des centaines d'opérateurs de transport de nous ouvrir leur système de distribution et de vente pour pouvoir les connecter à notre plateforme. Donc ça a été vraiment le premier travail.
Parce qu'ils peuvent se demander pourquoi, par exemple, tu prends une ville comme Lyon ou plus grand, comme Paris, pourquoi eux ne le feraient-ils pas eux-mêmes ?
Parce que technologiquement, c'est très complexe. Ça coûte très cher.
Super cher
et puis, c'est toujours bien de s'appuyer sur une start-up parce que les start-up sont agiles, flexibles, elles vont vite. Et elles ont cette capacité d'innover que parfois, malheureusement, les villes n'ont pas.
Ouais.
Mais en même temps, ce n'est pas forcément leur métier de faire la tech. Donc, elles vont plutôt faire des appels d'offres et confier ça à des intégrateurs ou alors des start-up comme la nôtre.
Ah oui, et puis là, c'est un autre métier parce que quand tu réponds à un appel d'offres, ça se passe comment ? Enfin, tu as des exemples comme ça d'appels d'offres auxquels tu as répondu ou c'est vraiment le premier où te dis waouh, j'ai un dossier de 90 pages à remplir.
On l'avait toujours en tête, on s'est toujours dit un jour qu'on allait le faire et un jour on a une personne qui nous contacte qui s'appelle Emmanuel Chouchois, que je remercie aussi également. Emmanuel
J'ai Chouchois. Vu, vous avez fait une. Il y a une vidéo à regarder sur ton profil LinkedIn, peut-être que je la relinkerai aussi dans l'article qui te sera dédié sur Slice, où vous expliquez avec cette fameuse ville à l'export.
Effectivement, ça a été un appel d'offres qu'on a raté, qu'on n'a pas gagné, il faut le dire.
C'était pour quelle ville ?
C'était pour Rouen.
Rouen,
effectivement. Donc Emmanuel Chouchois, à cette époque, était directeur commercial chez Thales.
Ok.
Et donc Thales voulait répondre à cet appel d'offres-là. Et donc, ils cherchaient une solution un peu sur étagère, parce qu'eux ne l'avaient pas en interne. Et donc, il nous a appelés, on a participé.
Toujours pour la mobilité
Toujours pour notre, ce qu'on appelle aujourd'hui notre marketplace, donc notre technologie qui permet d'aller vendre des offres de transport de plus de 3000 opérateurs.
D'accord.
Donc, donc il nous a contactés, on a répondu à cet appel d'offres. La chance, c'est que justement, ce n'est pas nous qui avons fait ce fameux dossier, parce que c'était Thales qui le positionnait comme leader du groupement. Donc, c'est Thales qui a fait le travail le plus ingrat, le plus long. Donc ils ont répondu à l'appel d'offres et nous ça nous a pas demandé trop de travail, mais malheureusement on n'a pas été sélectionné.
D'accord.
Parce que on peut le dire, c'est pas de notre faute, cette fois-ci c'était plutôt la faute de Thales qui avait assez peu d'expérience sur ce marché-là.
D'accord.
Et donc ils avaient un peu moins de crédibilité, on n'a pas remporté cet appel d'offres. Ça a été pour nous un moyen de nous confronter à ce qu'était un appel d'offres.
Ouais. Ah bah oui, tu m'étonnes.
Et quelques mois après, je reçois un mail de KPMG en Indonésie qui me dit qu'il y a un appel d'offres qui sort. Faut le dire quand même, notre marché, on appelle ça les applications MaaS.
Oui.
Mobility as a service.
Ouais.
En français, on dirait la mobilité servicielle.
Oui.
C'est l'Amazon de la mobilité. Donc une application qui regroupe tous les modes de transport, si on peut faire simple.
Vous n'avez pas l'air encore, c'est que terrestre.
Oui, alors nous c'est du transport terrestre et on ne fera que du transport terrestre.
Ah ouais ?
Parce qu'il y a déjà des entreprises qui font depuis les années 90 ce qu'on fait, mais pour l'aérien, des boîtes qui valent aujourd'hui Amadeus, il y a une boîte qui est valorisée 60 milliards et vous ne le savez pas, mais un billet d'avion sur deux que vous achetez sur les plateformes, les agences de voyage en ligne, en fait derrière, la technologie derrière, vous ne le savez pas, mais c'est Amadeus. Donc il y a déjà des entreprises qui faisaient dans les années 90 ce qu'on fait aujourd'hui, mais uniquement sur l'aérien.
Mais pourquoi ils n'ont pas... aucun qui s'est dit, tiens, terrestre...
Parce que c'est beaucoup plus dur de le faire sur du terrestre. Que dans les années 90, les boîtes de transport n'avaient pas des systèmes d'information aussi développés que pouvaient avoir les compagnies aériennes.
Ouais.
Et donc techniquement, ce qu'on fait n'était pas faisable avant les années 2015.
Donc arrivé au bon moment.
Exactement. Je pense qu'effectivement, on est arrivé au bon moment.
Ok.
Et donc voilà.
KPMG, donc à...
KPMG nous a dit, on nous dit, il y a un appel d'offres. Jakarta, troisième plus grande métropole du monde.
Tu pensais, toi, Alex ? Enfin, donc là, on va vite.
Oui.
Mais tu pensais déjà, donc il y avait les villes donc, en France, etc. Et puis June, etc. Mais est-ce que dans ta tête, l'export, c'était envisagé,
c'était
une possibilité ?
C'était envisagé. On a réfléchi, construit notre entreprise dès les premiers jours pour aller très vite sur des marchés internationaux.
Okay.
L'intégralité de mes collaborateurs parlent ils sont pratiquement bilingues.
D'accord, ouais.
Donc voilà, ça, tout a été pensé effectivement pour l'international, mais très sincèrement, on ne pensait pas y aller si vite. Parce que quand on reçoit cet appel d'offres, je dis à ma responsable commerciale, Priyajit, je lui donne cet appel d'offres en charge de répondre à cet appel d'offres, et je lui dis, c'est un crash test, on va se planter, mais l'idée, c'est d'apprendre.
Ok.
Moi, en tant que leader, ce que j'aime, c'est faire progresser mes collaborateurs et mon entreprise. Et donc, on s'est dit, c'est pas grave, on va se planter.
Puis, on aura vu ce que ça prend pour candidater. Puis, au moins, comme ça, pour les autres, on sera beaucoup plus backé, tanké pour aller peut-être les gagner. Quoi.
Complètement. Voilà. Okay. Exactement, c'était vraiment l'idée. Et puis, on répond à cet appel d'offres. On trouve des partenaires parce que souvent, ces appels d'offres sont très larges sur un certain nombre de briques technologiques. Ouais. Et nous, on ne les faisait pas toutes.
Ouais.
Donc, il a fallu trouver des partenaires qui viennent répondre avec nous à cet appel d'offres. Donc on a trouvé deux partenaires locaux, donc indonésiens, qui sont plutôt des grosses PME qui proposent des solutions de paiement.
D'accord.
Et il nous fallait aussi un acteur qui fasse de la billettique, donc des tickets digitaux pour les transports en commun. Et donc on a travaillé avec Thales, qu'on connaissait du coup, un ancien appel d'offres. Et donc on a répondu ensemble à cet appel d'offres. On a commencé le travail à partir de décembre.
Et comment tu fais le relais sur place pour trouver justement cette PME sur place qui fait des moyens d'y aller?
Non, je ne suis pas allé. Et là, on a des outils qui sont formidables avec Teams, avec Zoom, avec Google Meet, qui nous ont permis d'organiser, de construire ce consortium et de pouvoir répondre à l'appel d'offres parce que c'est un process très, très, très compliqué.
Tu as fait appel, par exemple, à des structures comme Business France ou des choses comme ça? Ou
pas vraiment.
Non, c'est d'autres groupements?
Non, du tout. On a tout pris en main tout seul. J'ai une responsable commerciale qui est ultra talentueuse qui s'appelle Priya, qui a fait quand même le gros du travail. On était aussi accompagné par Emmanuel Chauchois qui a quitté Thales, mais qui était toujours très proche de l'entreprise et qui nous a beaucoup conseillé, qui répond à des appels d'offres depuis des années et des années et des années.
C'est un professionnel. Donc,
c'est un professionnel clairement et un expert de l'appel d'offres.
Ouais.
Donc il nous a beaucoup aidé pendant tout ce process qui a été très très long.
Ouais, tu m'étonnes.
Très long parce que il y a le décalage horaire, enfin il y a tout un tas de contraintes qui fait que c'était assez compliqué. Et février 2000, donc 3 mois après ce fameux mail de KPMG, on nous dit « Vous êtes en finale ». Alors là, déjà, grosse surprise.
Oui, là, tu te dis « D'accord ».
Est-ce une blague ? Non, ce n'est pas une blague. Donc,
tu sais qui étaient tes concurrents en face ?
Oui. Et puis, quand on apprend concurrent Gojek, ce n'est pas connu en Europe, mais Gojek, c'est le Uber asiatique. C'est une boîte qui est valorisée 60 milliards de dollars. Enfin, c'est une énorme
boîte.
Et en face, Lico, Thales et ses deux partenaires. Donc, effectivement, là encore une fois, on s'est dit, c'est super, on est en finale, ça va permettre de faire un peu parler de nous. Mais à mon avis, on n'a aucune chance, on a quand même le champion local. Parce
qu'ils sont plus proches, proximité géographique.
Gojek est indonésien, son siège est à Jakarta. Donc, forcément, c'est un peu compliqué.
À un moment donné,
c'est ça. Et donc, on répond quand même à cette finale.
Ah oui, il faut refaire encore des papiers pour la finale.
Effectivement.
Ça ne s'arrête jamais, quoi.
Ça ne s'arrête jamais, effectivement. Des rendez-vous jour et nuit, c'était très, très complexe. Alors, des problématiques à laquelle on ne s'attendait pas. Par exemple, il faut savoir que quand vous avez fait des appels d'offres à l'international, il faut que tous vos documents juridiques soient traduits par un traducteur assermenté.
Oui, c'est ça, à l'ambassade, là. Où,
c'est ça, ouais. L'Indonésie, il fallait qu'en plus ça soit validé par le ministère des Affaires étrangères plus par l'ambassade d'Indonésie à Paris. Donc ça, c'est des choses à laquelle une petite boîte n'est pas préparée.
Oui.
Et puis, faut pas croire, la traduction de documents, c'est plus de 10 000 euros.
Ah oui, bah oui, ça, c'est un truc, c'est homo et tout ça. Oui.
Pour des entreprises comme Thales,
oui,
c'est rien. Sûr. Mais pour nous, c'est quand même des frais très lourds. Mais on l'a fait quand même parce que c'était quand même une chance unique d'être en finale et d'être connu par notre marché et notre industrie. Donc voilà, on a passé les rendez-vous un par un jusqu'à début mars, résultat qui tombe. Et là, on perd. Dans un premier temps, on perd l'appel d'offres. Donc, c'est pas grave, on a fait ce qu'on avait fait, on était fiers.
C'est vraiment pas grave pour quand même.
Je suis un compétiteur. Donc, devant mes équipes, effectivement, c'est pas grave. Mais au fond, j'aime pas perdre.
Oui.
Donc, j'étais vraiment pas content.
Ouais.
Mais notre partenaire nous appelle et nous dit votre concurrent a fait une grosse erreur juridique. Et en fait, il a fait quelque chose dans l'appel d'offres qui est complètement interdit. Et a priori, si on fait appel de cette décision, on devrait gagner. En fait, ce qu'il se passe, pour être très clair, c'est qu'un appel d'offres en Indonésie, lorsque le client, donc celui qui fait l'appel d'offres, ouvre les enveloppes avec les prix, il le fait exactement en simultané. Et on s'aperçoit que notre client, notre concurrent, donc Gojek, est pratiquement 20 fois plus cher que nous. Donc on s'est dit, c'est bon, on a gagné.
Fois.
Effectivement, sauf qu'il y a une période de négociation qui dure quelques heures, où en fait, ensuite, chaque groupement va redonner son prix final. Et donc là, ils ont vu la différence de prix. Qu'est-ce qu'a fait notre concurrent? Forcément, ils se sont alignés à 10 euros près, en dessous de nous. Donc, ils étaient,
en voyant le prix en avance.
Ils ont baissé leur prix par 15 et ils se sont mis juste en dessous de nous. Et donc, à l'ouverture de la deuxième enveloppe commerciale, c'est comme ça qu'on l'appelle, ils se retrouvent devant et ils gagnent. Sauf que dans les règlements administratifs d'Indonésie, c'est interdit de baisser son prix et de le diviser de plus par deux.
Non mais là...
Effectivement.
C'est un peu...
Effectivement. Donc voilà, ensuite on a fait appel et justice nous a été rendue, puisqu'effectivement on a été nommé gagnant de l'appel d'offres parce qu'ils se sont dû remettre leur prix initial et forcément on était 13 ou 15 fois moins cher qu'eux.
Ah oui.
Donc voilà, on a gagné cet appel d'offres et là on nous appelle pour nous dire ça a été, c'était, on se croyait vraiment dans un film quoi. On s'est dit c'est pas possible, on est une petite entreprise de 10 personnes et on gagne un contrat pour déployer une application pour près de 30 millions d'habitants. Et là, vous avez une heure d'euphorie, et puis après.
Là, moi, c'est ma question qui vient parce que moi, ça me rendrait pas euphorique. Je me dirais, waouh, comment on va faire?
Alors, effectivement, c'est on a ça, eu cette période d'euphorie.
La
parce
question,
que
c'est. Oui, non, mais c'est normal de se réjouir.
Les équipes n'étaient pas au courant, en fait, de la procédure d'appel. Donc, pour eux, ils avaient perdu.
On se pose plus de questions. Ok, mais comment on fait?
Et après, au bout d'une heure.
La réalité te rattrape.
On se dit, bon, c'est bien beau de gagner, mais maintenant, il faut la déployer, cette application. Et puis, bon, c'était un très, très, très gros challenge, mais on a une équipe technique qui est quand même de très haut niveau, très sérieux, très professionnel, et qui m'a dit, c'est pas grave, on travaille jour et nuit, mais ne t'inquiète pas, Laurent, l'application sera déployée et on va le faire. Donc, voilà, on est des... Et c'est comme ça que je recrute beaucoup mes collaborateurs. J'aime les hommes et les femmes de défi. Et ce sont des femmes et des hommes de défi. Et donc, on a relevé les défis.
En plus, c'est stimulant. Tu vois, tu te dis, waouh, on est nous à Lyon, à la Duchère. Et là, c'est Jakarta qui nous parle.
C'est Jakarta. Enfin, on bat tous nos concurrents.
Mégalopole.
C'était une période euphorisante, mais en même temps très challengeante.
On va vous montrer que.
Ah bah là, forcément, les médias se sont intéressés à nous, médias internationaux. Voilà, la petite start-up, on est passé à la télé sur Bismart. Hein, la petite start-up lyonnaise qui gagne un contrat majeur international. Vous savez, l'export n'est pas forcément notre grand fort en France. La petite start-up qui gagne, forcément, beaucoup de monde en voulait en parler. Donc ça nous a apporté de la crédibilité, de la notoriété. Les prospects entrants dont je vous parlais, la plupart viennent parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a déployé l'application masse la plus ambitieuse au monde.
Ouais.
Donc voilà, ça nous a apporté beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, il faut pouvoir financer cette boîte.
Ouais.
Bon, mes problèmes financiers sont maintenant derrière moi.
Oui.
Donc, du coup, voilà, il faut financer cette boîte. Et on commence à se mettre depuis juin dernier dans un process de levée de fonds.
Okay.
On va essayer de convaincre des investisseurs privés de venir accélérer notre entreprise en nous apportant des capitaux propres pour nous permettre de recruter des développeurs, des commerciaux et de venir capitaliser sur cette belle victoire qui est Jakarta, puisqu'en plus maintenant l'application est déployée.
Ouais, ça marche bien.
Tous nos partenaires sont très contents, les clients sont très contents. Donc voilà, on a prouvé qu'on savait le faire, qu'on le faisait bien, qu'on le faisait vite. Donc voilà, maintenant on s'est dit... Maintenant qu'on a gagné Jakarta, on veut gagner Rio, on veut gagner New York, on veut gagner
le monde. Là, il n'y a plus Sky is the limit.
C'est exactement
c'est ça.
Et donc on est en cours de process de levée de fonds qu'on devrait clôturer avant la fin de l'année.
Ouais, t'es accompagné pour ça
Non.
Un cabinet
On le fait seul. La levée de fonds, on l'a fait seul.
Et tu t'es renseigné, t'as eu une formation parce que tu sais à qui tu t'adresses, parce que tu sais, t'as plein de différentes personnes, structures à laquelle tu t'adresses justement pour faire des levées de fonds. Comment tu choisis, comment tu. Non ?
J'ai été voir personne, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup tout seul.
Ouais.
Donc voilà, Google est, je le dis souvent, notre meilleur ami, parfois notre pire ennemi, mais il est souvent quand même notre meilleur ami. Et puis voilà, ça m'a permis d'apprendre sur comment marche une levée de fonds, comment on contacte les investisseurs, quel est le process. Donc voilà, j'ai beaucoup appris, je me suis lancé, c'est quand même moi qui suis sur sujet, mais je vais accompagner mes associés. à trouver des investisseurs qui voulaient bien nous financer et nous permettre d'accélérer.
D'accord.
Pour atteindre nos objectifs et notre ambition.
Donc là, vous allez clôturer quand
On espère clôturer une levée d'1,2 million avant le 31 décembre 2021.
Ah oui, dans un mois, quoi.
C'est en de très bonne voie, les discussions avancent bien. On espère pouvoir l'annoncer ça et j'espère pouvoir faire ce cadeau de Noël à tous mes collaborateurs.
Ah, ça serait cool, ouais. J'ai hâte pour vous.
Ça serait le plus beau cadeau que je puisse leur faire, puisque ça nous permettrait de sécuriser notre entreprise sur plusieurs mois, vers même plusieurs années.
Ouais.
Et voilà, on est en position de survie depuis 2 ans, on a pris beaucoup de risques. C'est pas facile d'être une jeune start-up, c'est beaucoup d'investissements personnels, professionnels pour en arriver là. Et maintenant, bah, voilà, on veut se financer pour vivre comme une vraie entreprise.
Ouais.
Et c'est ce qu'on est en train de faire.
Et tu parles justement de tes employés, si on remonte, parce que là, Jakarta, c'était il y a quelques mois, donc c'était courant 2021, ou 2020, non, c'était courant 2021. Quand on remonte au tout premier de tes partenaires, June, du coup, c'est à partir de quand que tu as recruté une première personne? Très vite,
June a permis de recruter notre premier collaborateur,
d'accord,
qui est Igor Tcherepov.
Ouais.
Qui est rentré chez nous comme un alternant.
D'accord.
Mais alternant très ambitieux, un gros, gros, gros travailleur, et puis qui humainement ressemblait et partageait les mêmes valeurs que nous. Donc on l'a embauché suite à son alternance et grâce au contrat de June, notamment. Ouais. Ensuite, on a signé, alors effectivement, on n'en a pas parlé, mais on a signé un deuxième contrat avec le constructeur auto Seat. Entre Jakarta et June, on a rencontré Seat sur un salon qui s'appelle Autonomie, qui est un gros salon français dédié aux nouvelles mobilités. Et Seat veut devenir un acteur du MaaS et avoir une application demain qui permet de distribuer plein d'offres de transport et non pas qu'un constructeur auto, puisqu'il a compris que ça, c'était un peu terminé. Donc, il fallait qu'ils fassent autre chose. Et donc, ils utilisent aujourd'hui notre technologie pour développer une application MaaS qui est aujourd'hui sur les stores Android et Apple.
D'accord.
Et qui est déjà en production,
son application qui propose
sa propre application, donc encore une fois personne ne sait qu'on est derrière, mais
quelle que soit la ville ou non, ils ont une zone.
C'est la grosse différence entre les autres applications et c'est ce qui fait aussi la force de notre technologie, c'est que c'est un calculateur de trajet multimodal, donc un peu comme ce que peut faire un City Mapper ou Google Maps, sauf qu'en fait ces calculateurs savent le faire sur une ville, sur une métropole, mais n'ont pas la capacité de faire des calculs à l'échelle d'un pays complet,
d'accord,
donc relier Lyon à Marseille par exemple, là où nous, notre calculateur est le seul au monde à être capable de faire ce type de calcul. Donc Seat a utilisé notre technologie pour faire un calculateur de trajet national et venir concurrencer à terme l'application SNCF qui est un peu ce type d'application, donc on n'en est pas encore là.
Oui, c'est en développement.
Mais voilà, c'est un peu l'objectif de venir apporter un service multimodal national. Donc voilà, entre-temps, on avait aussi ce contrat Seat qui nous a permis de nous développer, d'embaucher Linda, notre responsable marketing, d'embaucher Priya, notre responsable commercial, et de faire grandir l'équipe, j'allais dire doucement,
donc,
mais pas si
doucement. Et donc, il était alternant en quoi? C'était
alternant
quoi,
designer.
Designer,
il est
okay.
rentré chez nous en tant que designer, toujours lead designer.
Ouais. Donc un designer, le commerce, le marketing.
Le marketing, moi, la stratégie et le commerce, bien sûr, c'est quand même le cœur de mon travail.
Les devs avec Adrien
le directeur technique, donc l'équipe technique. On a aussi des alternants qui sont venus en soutien sur la partie marketing et la partie technique.
Mm-hmm.
Donc voilà, l'équipe est passée de 3, 4, 5, 6 pour aujourd'hui être 12.
Ouais.
On espère, après cette levée de fonds, normalement, on devrait être 25.
Ah oui, d'accord, ouais, oui, pas mal, ça commence à faire du monde,
Oui, ça commence à faire
du monde. Et j'ai vu que donc vous faisiez des contrats avec des villes et des métropoles, il y en a certaines que tu as rencontrées après Seat, etc.
Alors, on les rencontre, bien sûr, mais les villes sont soumises à l'achat public, donc elles sont obligées de faire des appels d'offres. Mais bien sûr, on les rencontre en amont de ces appels d'offres pour bien sûr leur présenter un peu notre produit. Et puis, on est surtout aux aguets sur les nouveaux appels d'offres qui sortent partout dans le monde. On travaille sur des appels d'offres, on ne peut pas vraiment le dire aujourd'hui, mais voilà, sur plusieurs villes dans le monde, plusieurs
très
grandes villes dans le monde, oui.
Maintenant que vous avez Jakarta, vous savez, vous êtes rodé.
Oui, on a un petit peu d'expérience.
Un tout petit peu.
Donc voilà, on répond à des appels d'offres. Ouais. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de trouver des clients entreprises comme Seat, comme d'autres, mais aussi des acteurs publics qui vont faire des appels d'offres. Et nous, on vient répondre à ces appels d'offres avec des partenaires en général. Donc voilà, on essaye de scruter un peu tous les marchés. On est accompagné sur ces sujets-là, notamment avec des cabinets parce que monsieur Emmanuel Chauchoin a créé son cabinet derrière d'accompagnement vers le marché international. Ouais. Et donc, on travaille avec le cabinet Chauchoin conseil et recrutement pour nous mettre en place un réseau de distribution à l'international, donc des entreprises qui vont vendre, entre guillemets, pour nous, nos solutions sur leur marché partout en Europe.
D'accord.
Donc voilà, on se fait aider un peu sur ces sujets-là aussi, bien sûr, il faut.
Ok, d'accord. Est-ce qu'en devenant patron et en créant cette entreprise, en développant Lico, il y a des métiers que tu as découverts, des choses que tu n'imaginais pas avoir à gérer ou à gérer au sein d'une équipe, soyons très terre à terre, mais au sein de ton équipe qui grandit, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes, tu t'y attendais pas, tu t'es retrouvé parfois un petit peu...
Alors que j'ai découvert pratiquement tout, en fait, hein, parce que j'étais un taxi, j'étais déjà chef d'entreprise, mais ça ne me demandait pas autant de compétences que j'en ai besoin aujourd'hui. Donc oui, j'ai pratiquement tout appris sur le tas, hein, vraiment, en créant cette boîte. Et s'il y a des métiers à laquelle je ne penserais pas, par exemple, je ne pensais pas qu'il y avait des traducteurs assermentés.
Ah oui.
Je reviens là-dessus, mais très sincèrement, je
c'est comme quand
tu es
diplôme, quand tu vas à l'université, si tu fais l'université à l'étranger, notamment dans un pays anglophone, c'est du vécu. Mmh. Tu dois valider tous tes diplômes, machin. Tu dois les emmener dans l'un pour qu'ils soient traduits et pour que sur place on valide que ce soit une vraie traduction et c'est pas toi qui a. Oui, d'accord. Moi je suis diplômée de Polytechnique. C'est faux.
Très sincèrement, pour moi.
T'as pas fait un PDF, tu sais, derrière.
D'accord. Très sincèrement, pour moi, c'est
Et le recrutement, la compta,
la compta, c'est pas l'administratif, tout le monde le sait dans mon équipe, c'est pas mon fort, faut le faire. Mais effectivement, j'espère que très rapidement, on va pouvoir embaucher quelqu'un qui va
dédier. Ouais.
La compta, oui, effectivement, la finance, faire des prévisionnels, enfin, c'est quelque chose où j'ai passé des heures et des heures à retravailler des.
Mais surtout valoriser ce que vous faites.
Exactement.
Enfin, moi, c'est toujours une question, comment tu valorises...
Financièrement.
Ouais, financièrement. Comment tu veux vendre un produit, mais comment tu décides que ça vaut ça? Parce que toi, c'est...
Alors, il y a deux choses.
C'est des heures de travail.
Il y a le prix de vente de notre solution, où là, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder sur le marché ce qui existe. Comme on dit, on va faire un peu de benchmark, on va regarder les différents concurrents et on va essayer de trouver le prix qui ressemble en tout cas le plus à ce qu'on veut mettre sur le marché. Et après, il y a la valorisation de l'entreprise, où là, j'aime beaucoup l'explication d'un des VC, comme on dit. Donc, c'est une personne dont le métier est d'investir dans les startups, qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui est un peu le bras droit d'investissement pour Xavier Niel, hein, un des plus gros entrepreneurs français, une fois dans un podcast qui a dit que la seule technique était celle du doigt mouillé. Et c'est un peu ça, parce qu'en réalité, il n'y a pas autant sur l'entreprise traditionnelle, il y a des techniques comptables qui vous permettent de valoriser l'entreprise. Ouais. Sauf que dans une start-up, il n'y a pas de technique comptable parce qu'on parle sur des marchés qui sont en émergence, voire complètement inexistants pour le moment. Et donc forcément, ce qu'on vend, ce n'est pas tant un produit qu'un chiffre d'affaires à date, mais c'est plutôt une ambition et une vision qu'on aura de l'entreprise dans 5-10 ans.
Ouais.
Donc voilà, il n'y a pas de technique comptable. Le seul moyen de faire, c'est de regarder à peu près... combien se valorise une entreprise qui fait à peu près le chiffre d'affaires que l'on fait, avec le nombre d'employés que l'on a. Enfin, on essaye un peu de regarder autour de nous, mais il n'y a pas de technique. Et puis après, il y a les investisseurs qui, eux, mettent ce coup de tampon sur la valorisation, puisque c'est eux qui disent « Ok, on investit pour
parce
cette valorisation-là. »
Parce qu'on est d'accord sur ça.
Et c'est grâce à leur coup de tampon, à leur signature dans une levée de fonds, qu'on peut effectivement officiellement valoriser une entreprise à un montant précis.
D'accord. Vous n'avez jamais fait de prêt?
On a fait des prêts, enfin, au départ on n'y avait pas loin, beaucoup de start-up, quand vous achetez des fonds de commerce, les banques vous prêtent, quand vous montez à des produits digitaux et tech, les banques vous prêtent très rarement.
Ah ouais, t'as eu des problèmes
Au départ, j'ai même un banquier, je dirais pas la banque, hein, mais j'ai même un banquier qui m'a dit, vous savez, si vous étiez Facebook, on vous aurait prêté de l'argent. C'est un peu, oui.
Quoi cette réflexion?
C'est un peu particulier
tout
comme référent. Mais effectivement, aucune banque ne voulait prêter de l'argent. Et là, je ne tire pas sur l'une plus qu'une autre parce qu'en réalité, je peux les comprendre. On est sur des métiers assez complexes. Les personnes qu'on a en face ne sont pas forcément des ingénieurs et ne comprennent pas forcément.
Et n'ont pas la compréhension de ce que tu fais. Parce que, encore, tu fais une plateforme de covoiturage. Je pense que tout le monde. On a compris le principe, mais quand tu dis que tu fais des briques technologiques pour permettre à d'autres de proposer de l'agrément, tu vois, c'est déjà plus. C'est-à-dire, quel est ton produit en fait? API, masse.
Et puis le banquier, lui, ce qu'il voit, c'est. Enfin, c'est en tout cas, ce qu'il réfléchit, c'est si ça se passe mal, comment je fais? Quand tu as une pizzeria et que ça se passe mal, banquier récupère le fonds de commerce.
Oui, c'est ça, il récupère les murs ou le machin.
Par contre, notre plateforme internet, il ne pouvait rien en faire. Notre techno aujourd'hui ne peut pas en faire grand-chose. Donc forcément, c'est compliqué et je le comprends qu'une banque soutienne difficilement des startups. Par contre, on a le droit à des prêts, je ne devrais pas dire ça, malheureusement, à cause du Covid.
Ouais.
Là, le PGE et la garantie de l'État qui a mis derrière, ça nous a permis d'aller chercher un prêt pour financer plusieurs mois. Et vous avez un organe unique au monde et qui est exceptionnel en France. Et là, je leur dis, on a beaucoup de chance en France. Ça s'appelle BPI France, la Banque publique d'investissement, qui est le plus gros financeur, le premier financeur des startups françaises. Et là, ils ont un nombre d'outils de financement qui est assez exceptionnel. Et on a beaucoup de chance. Et donc, on a eu ce qu'on appelle des avances remboursables à taux zéro. Enfin, c'est même pas des prêts, puisqu'ils ne gagnent même pas d'argent là-dessus, en fait. Donc voilà, on a été financé aussi un petit peu par des avances remboursables de BPI. Mais pas de gros prêts comme certaines entreprises peuvent le faire. Nous, on n'a pas fait le choix de le faire. Là, on va le faire dans la levée de fonds parce que quand vous levez de l'argent auprès d'investisseurs privés, souvent, vous allez faire ce qu'on dit effet de levier en allant chercher des prêts auprès de banques. Donc là, effectivement, on va un peu plus s'endetter. Mais jusqu'aujourd'hui, non, c'était pas vraiment le cas.
D'accord. Donc l'ICO est créé depuis juin 2018. Donc ça a fait 3 ans.
C'est ça.
C'était à refaire.
Ah, je le referais, mais...
Tout pareil.
Tout pareil, même si on a vécu des moments très compliqués, moments de joie, on a tout vécu, hein. c'est assez exceptionnel comme aventure à l'entrepreneuriat, je referais tout exactement de la même manière, effectivement. Et puis je suis quelqu'un, de toute façon, je suis un garçon qui n'est pas doré, vous voyez, je vais même jusqu'à dire que ça a été une bonne chose que je perde mon permis, parce que si tu analyses un peu ma vie,
le parcours,
tu te rends compte
que ça t'a fait faire d'aller dans des formations,
un mal pour un bien, donc même les erreurs que j'ai faites qui m'ont mis très grosse difficulté aujourd'hui, ça n'était qu'une étape pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Donc en fait, non, il n'y a absolument rien que je regrette. Non, je referai vraiment tout pareil.
Dès le début, tu as fait partie de la French Tech. Alors c'est la French Tech Lyon-Saint-Etienne.
C'est ça.
Dès le début, tu es rentré là-dedans ou c'était parce qu'ils sont venus te chercher, je ne sais pas.
Ça a été un peu des deux. Ils sont venus me chercher et moi, j'ai aussi montré mon intérêt pour cette association.
Ouais.
Donc, beaucoup de monde aujourd'hui connaît la French Tech. Donc, c'est un mouvement qui a été mis en place par le ministère de l'économie. C'est une association, la French Tech.
C'est une association,
C'est une association. Et en fait, dans chaque territoire, on a ce qu'on appelle les capitales French Tech. Où en fait, c'est des associations qui sont assez indépendantes, d'ailleurs, dans toutes les grandes villes. Et donc, à Lyon, Saint-Etienne, on a French Tech One.
Saint-Etienne, qui est,
qui est effectivement, aujourd'hui,
Là.
En termes d'écosystème, on ne le fait plus qu'un.
Ouais.
Et donc, en French Tech One, Lyon-Saint-Etienne, effectivement, pour lequel aujourd'hui, je suis membre du conseil stratégique.
Ouais.
Et en fait, ça a été un peu... On s'est retrouvés dans le sens où moi, il y a un sujet sur lequel j'avais envie de beaucoup m'impliquer, qui est la diversité et l'inclusion dans les entreprises de la tech. Et donc, en même temps, la French Tech était en train de monter une commission dont l'objectif était justement de réfléchir et de mettre en place des solutions concrètes pour pousser la diversité dans les entreprises.
La diversité, tu veux dire
La diversité culturelle, la diversité économique, religieuse.
Okay.
Voilà, tout type de diversité.
Tout type de diversité
effectivement.
Et d'inclusion, ouais.
Exactement.
Les hommes, les femmes,
exactement, tout à fait. Et donc, French Tech One a créé cette commission et on m'a demandé d'en faire partie parce que déjà, de par mon expérience, je suis un des rares entrepreneurs de la tech à ne pas avoir de diplôme, ou très peu, qu'un bac. Je crois que 90% des entreprises sont montées par des gens qui sont au moins bac plus 5. Donc déjà, par ce parcours-là, on m'a demandé d'intervenir parce qu'on a aussi une équipe qui a été grandie avec la diversité.
Ouais.
Tu l'as vu, j'ai tout type dans mon entreprise.
Oui.
C'est très divers. Et on adore ça et je suis intimement convaincu en tant qu'entrepreneur que c'est ce qui a fait la réussite. En tout cas, la réussite qu'on a aujourd'hui, c'est cette diversité.
Les gens de
et
tous les milieux qui
exactement
ont toutes sortes d'expériences.
D'expériences
en fait,
qui vous permettent, dans vos réflexions, d'avoir des réflexions qui sont différentes. Et c'est hyper enrichissant aussi bien humainement que professionnellement et pour l'entreprise stratégiquement aussi.
T'en parlais, je suis désolée de te couper, mais t'en parlais du fait que tu n'as pas de diplôme. Est-ce que à un moment donné dans ton parcours, ça t'a créé une sorte peut-être de... syndrome de l'imposteur où je suis pas, c'est pas ma place, je suis pas capable, enfin,
mais tout premier temps.
Est-ce que je suis pas en train de faire un truc qui va me dépasser, je vais plus réussir à suivre, tu sais, ce genre de choses quand tu te lances dans une activité où t'as pas été, même quand t'as un bac plus 5, où tu te lances dans, moi je me lance dans le podcast, je vais faire du montage son, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Bon, c'est à ma petite échelle, hein. Mais tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Enfin, donc je me dis, déjà à petite échelle, tu te poses cette question, genre, attends, voilà, mais toi, à l'échelle de je monte une boîte, j'ai 12 employés, sur les épaules.
Je crois que c'est le cas de tout le monde. On a tous ce syndrome de l'imposteur. Faut pas se leurrer. Je
pense sauf que... les gens qui ont un boulard.
Oui, mais encore même pas. J'ai rencontré des gens, ou alors, oui, qui ont vraiment ce boulard, mais j'ai rencontré des gens très brillants qui le savaient et qui m'ont dit avoir eu à un certain moment dans leur vie ce syndrome de l'imposteur. Donc je pense qu'il est assez naturel chez tout le monde. Et oui, moi aussi, je l'ai eu pendant plusieurs semaines. Je me suis dit, mais c'est pas à moi de monter ce genre d'entreprise. J'ai pas de diplôme. Dans la tech. Ouais, ça fait rire souvent beaucoup de monde, mais aujourd'hui, je parle de langage HTML, CSS, Python. Mais HTML, il y a 4 ans, 5 ans, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais vraiment, pas du tout. Le premier événement que j'ai fait tech, je ne comprenais absolument rien à ce qu'on me racontait.
Tu t'es dit, je me suis plantée dans... Je vais me casser.
Effectivement, mais je vais faire demi-tour. Ça a été très compliqué, mais à un moment, je suis aussi tombé sur des personnes qui m'ont donné confiance. Et puis, j'ai quand même une certaine confiance en moi, de par le sport, de par plein de choses.
Tu te formes aussi au jour le jour avec tes équipes.
Et puis, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que ce n'est pas forcément les gens diplômés qui réussissent le mieux.
C'est ça.
Il y a beaucoup de réussites entrepreneuriales. La personne qui a créé Alibaba, qui est aujourd'hui un champion mondial, s'appelle Jack Ma, et cette personne n'avait jamais fait d'entrepreneuriat, n'avait pas été surdiplômé. En France, vous avez des entreprises comme Feed, qui fait exploser sa boîte, et pourtant n'a pas de diplôme, vient plutôt d'un milieu assez précaire. Enfin, aujourd'hui, il y a plein d'exemples. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ma différence. C'est plutôt que d'en faire un point faible, je vais en faire un point fort. Et en fait, du coup, bah, c'est ce qui m'a permis, dans des événements, de me mettre en avant par rapport à d'autres, parce que justement, j'étais cet entrepreneur de la tech qui n'avait pas de diplôme. Donc, au bout d'un moment, plutôt que de le cacher, je l'ai affiché clairement à tout le monde. Et c'est ce qui m'a permis d'entrer dans cette commission
diversité, ouais.
Puis ensuite,
t'es mentor aussi, non? French Tech Tremplin, c'est ça, c'est
French
quoi?
Tech Tremplin.
French Tech Tremplin.
French Tech Tremplin est un programme qui a été mis en place par la French Tech, dont le but est aussi de promouvoir l'entrepreneuriat tech au sein des quartiers, parce que malheureusement, c'est un peu le problème que j'ai eu. C'est-à-dire que moi, d'où je viens à Saint-Priest, la tech, on m'en parlait pas. Il y avait très peu d'ingénieurs, enfin, on est vraiment très très loin de tous ces sujets, et pourtant je pense que le digital et la tech, on le sait toujours, c'est l'avenir, et que si ces populations qui sont déjà éloignées de l'emploi, on ne va pas les approcher d'une...
Ils sont éloignés parce qu'ils sont mis déjà, enfin, quand tu étudies un peu les politiques de la ville, elles ont été éloignées du cœur de la
géographiquement,
ville, géographiquement, déjà. Et qu'ils sont éloignés aussi parce que l'accès à une bonne éducation, exactement, de qualité, etc. Et puis il y a aussi des contextes dans lesquels elles vivent, etc.
Exactement.
Parce que c'est quand même un même type de population qu'on met à l'écart du centre de la ville, où on fait déjà une ségrégation, c'est un bien grand mot, mais une différence, on va dire, c'est sûr que c'est... Oui.
Exactement. Et aujourd'hui, il faut absolument que ces publics-là, que ces jeunes-là, se rapprochent de ces métiers de la tech, parce que c'est l'avenir, c'est là aujourd'hui qu'il y a un besoin, et l'entrepreneuriat. On dit souvent que le ruissellement n'est pas là et que les gens qui réussissent, en fait, ne donnent pas aux autres et que ça ne va pas vers ces populations-là.
Ouais.
Et moi, je reste assez persuadé que la seule solution pour qu'il y ait un ruissellement dans ces quartiers, il faut que ça soit des entrepreneurs de ces quartiers qui deviennent demain les Xavier Niel et qui vont pouvoir redistribuer et mettre en place des choses en faveur de ces publics-là. Et donc voilà, je suis très impliqué et dès que j'en rencontre...
Tu es le prochain Moussa Camara, je ne sais pas si tu connais, c'est le patron
enfin,
de...
Je ne connais pas personnellement.
Déterminé.
Effectivement, c'est quelqu'un que je suis
un gros boulot...
C'est un très gros travail.
Dans le 80, enfin, dans la banlieue
de
parisienne.
De partout en France maintenant, voilà, hein, puisque Déterminé est français, enfin, est à Lyon, est à Marseille, un peu de partout. Et effectivement, French Tech Tremplin, c'est un peu l'équivalent du programme Les Déterminés, sauf qu'il est fait par la French Tech.
Ouais.
Donc ça se ressemble et l'objectif est le même, effectivement. Et effectivement, Moussa Camara... Alors moi, je ne peux pas m'impliquer autant que lui le fait, parce que lui, c'est vraiment son travail.
Ouais.
Mais effectivement, si un jour j'ai la chance de pouvoir prouver qu'on peut venir d'un quartier et créer demain un champion mondial, et ben, si je peux me permettre d'aller voir des jeunes et
de
les convaincre,
et de...
comme j'ai dit, moi, il suffit qu'un jeune demain me dise « Grâce à toi, Laurent, j'ai créé une boîte qui a réussi », et ben alors j'aurai tout réussi.
Ouais, ouais, mais quelle que soit l'échelle, hein, t'as pas besoin d'être une boîte du CAC 40, etc.
Complètement.
Mais ta boîte qui te fait vivre, et t'es heureux, et t'es épanoui.
Mais j'ai quand même envie que certains aient ces ambitions-là.
Ouais.
Parce que.
Est-ce que t'as. quand l'horizon que tu vois, c'est juste ta barre d'immeuble, c'est vrai que c'est difficile, je pense, d'avoir ce, se dire c'est possible de faire un truc qui me dépasse et de rêver plus loin. Pour être sur Paris, on devait passer le périph' et rentrer intramuros. Enfin, c'est difficile de dire, c'est à ma portée, mais c'est vrai qu'il faut le dire. En France, il y a plein de structures qui permettent justement d'avoir des financements, d'aider à monter des formations dont tu parlais. Donc, il faut y aller, il faut oser.
Les Français aiment bien taper sur la France. Et c'est bien, parce que ça fait avancer les choses. Mais on n'a pas à se plaindre. Très sincèrement, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Il y a encore plein de choses à faire, mais il y a déjà plein de choses qui sont faites et qui sont à disposition des jeunes aujourd'hui.
D'accord. Nico, est-ce qu'il y a des fois où tu as eu peur pour la boîte, où tu t'es dit, on parle pas des tout débuts, hein, mais là, ces dernières années, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit,
oui,
c'est chaud?
Alors, je suis quelqu'un de toujours très optimiste. Donc, j'ai jamais imaginé et pensé une seconde qu'on allait perdre Nico.
Ouais.
Mais oui, il y a des moments où ça a été très dur, hein. Parfois il m'est arrivé, et je les en remercie tous les jours, mais de ne pas pouvoir payer mes collaborateurs et de les payer 2 mois après.
Ouais.
Et là, vous avez intérêt d'avoir une équipe
qui est soudée,
qui est résiliente, qui est solidaire et qui dit ok Laurent, on te fait confiance, nous on va continuer à travailler. Et
on ça, y croit, beaucoup, ça beaucoup, va
beaucoup,
marcher.
Beaucoup de chance. Et c'est ce qui a fait la réussite de l'ICO, c'est d'avoir des gens autour de moi qui sont aussi résilients et qui aujourd'hui vivent l'ICO comme moi je le vis. C'est-à-dire que l'ICO est à eux, et je dis toujours nous, parce qu'en fait, c'est plus moi l'ICO, ça nous appartient à tous.
Et du coup, le système Petite Annonce pour trouver ses co-founders, finalement, c'est une bonne idée?
C'est celle qui a marché pour moi. et je rencontre plein d'entrepreneurs, encore la semaine dernière, qui ont cette difficulté de trouver la bonne équipe et le bon ingénieur qui vient les accompagner sur ce projet-là. Et effectivement, je pense que c'est la première des grosses barrières pour un entrepreneur tech, c'est de trouver cet associé, cofondateur, CTO.
Donc, il y a la capacité.
Et là, je leur donne mon expérience et ce que moi j'ai pu faire. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. En tout cas, c'est celle qui a marché pour moi.
Ouais, d'accord. Bon, travailler, c'est bien. Et puis, on a compris que ça te passionne et que tu aimes profondément ton équipe et ton entreprise. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que déjà tu arrives à fermer la porte de l'ICO le soir, le week-end ou pour des vacances? Est-ce que tu prends plus de vacances que quand tu étais taxi? Et puis, qu'est-ce que tu fais sur ton temps libre? Est-ce que tu as des passions? Qu'est-ce que tu fais en dehors du boulot qui t'épanouit aussi pour ton équilibre personnel?
En dehors du travail, alors non, malheureusement, quand on est entrepreneur, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis.
Ouais.
On est entrepreneur, on est CEO de son entreprise tous les jours. Tous les jours,
tu dors, tu manges, tu es.
Mais oui, effectivement, il y a des moments où il faut couper. Je prends un peu plus, quoique pas vraiment beaucoup plus de vacances que quand j'étais taxi. Donc, ce que je fais à côté, j'ai pas de femme encore et j'ai pas d'enfant, donc, j'ai pas d'impératif familial. Je fais du sport, toujours un petit peu. Je vais m'entraîner.
Le judo ?
Plus trop de judo, j'essaye de faire un peu autre chose, du foot en salle, enfin des choses comme ça. Donc, je fais
foot en. Au chaud, le foot au chaud.
En salle.
En salle au chaud.
J'ai précisé.
Pas dehors, là.
Exactement. Donc voilà, je fais un peu de sport. Ma famille, qui est quelque chose de très important.
T'en parlais au début de ton papa qui disait parfois j'ai pas d'argent, c'est les patrons qui gagnent bien leur vie. Tes parents, alors quand ils te voient là.
Mes parents sont très fiers.
Ouais.
Très fiers. Alors, bizarrement, mon papa a toujours été quelqu'un de pas très optimiste et quelqu'un qui voit plutôt en général comment tu
le
vas
côté
faire
négatif,
si ça marche pas
et dans c'est une des façon projets, de se protéger, de pas être déçu,
bien sûr, et des projets qui étaient beaucoup plus terre à terre, il ne m'a jamais suivi, jamais vraiment encouragé. Mais alors là, pourtant, qui est le projet le plus fou que j'ai fait, alors là, bizarrement, depuis les premiers jours, il est à fond derrière moi.
D'accord.
et mes parents sont extrêmement fiers aujourd'hui de ce que je fais et de ce qu'on fait tous ensemble. Parce que oui, ils sont extrêmement fiers, même ils sont toujours stressés. Quand je vois mon papa le dimanche, c'est pour ça que je dis on est toujours si haut. Quand je vois mon papa le dimanche, j'ai droit quand même à 20-30 minutes d'interrogatoire sur l'entreprise, sur comment ça se passe, comment
on est
collaborateur. Mais je ne me plains pas, tant qu'ils me soutiennent, c'est l'essentiel.
Ouais.
Mais ils sont quand même plutôt très fiers. Donc voilà, c'est une partie, c'est comme ça aussi que je fais en dehors un peu du travail, c'est aller voir ma famille, leur raconter un peu ce qui se passe dans ma vie, profiter d'eux, parce que c'est important, profiter de mes amis aussi. J'ai été, fut un temps, un grand fêtard,
donc
je faisais beaucoup la fête. Bon, maintenant j'ai 35 ans, donc physiquement c'est plus possible. Et en plus,
physique, ouais,
et puis j'ai grandi.
C'est horrible. Comment puis... on sent la, je sais pas, passer la trentaine.
Ah bah compliqué, oui,
c'était
oui.
Quand c'était la semaine dernière, on a cru qu'on avait 15 ans, puis on a bu des shots de tequila. Et mais j'ai cru que j'allais jamais me relever le lendemain. J'ai fait, j'en ai plus la santé.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Ah, mais
je fais encore un petit peu la fête, ça m'arrive.
Oui,
hein.
Bah,
ça
faut
m'arrive
bien,
quand même de temps en temps. Donc voilà, le sport, la famille, la fête, et puis. L'entrepreneuriat, parce que pour moi c'est une passion, et puis je me fais des podcasts tous les week-ends, des reportages tous les week-ends, parce que mon travail est une passion,
ouais.
Et d'ailleurs j'ai pas l'impression de travailler quand je viens le matin à 8h le ça week-end, c'est... mais très sincèrement je viens avec le sourire, et à aucun moment j'ai l'impression, ben, le mot travail n'est pas du tout le bon mot, je vis une aventure en fait, tout
ouais.
Simplement. Donc voilà, je coupe le week-end, mais en même temps, je n'ai pas forcément ce besoin de couper, parce qu'en réalité, mon travail est ma vraie passion. Donc,
Et tu en parlais, j'ai deux questions qui me viennent. Tu en parlais du Covid avec les PGE, etc. Pour l'entreprise, pour l'ICO, la période Covid, comment ça s'est passé pour...
Alors, ça, c'est peut-être indécent ce que je vais te dire, mais pour nous, la période Covid a été plutôt une bonne nouvelle.
Ouais.
Pour deux raisons, c'est qu'on avait un gros travail... technique à faire,
ouais.
Donc on avait des
développements
très lourds
ouais.
à faire, et commercialement il fallait qu'on ralentisse un peu,
okay,
donc ça
nous
a permis de nous concentrer et de travailler un peu comme on dit en sous-marin, et de développer notre produit et de continuer d'accélérer sur cette partie
puis
technique.
Puis pour pouvoir après commercialement taper dedans, mais avec
exactement.
Un produit qui est bien léché, ouais, je comprends.
Exactement, et puis ça nous a permis, comme je te le disais tout à l'heure, d'avoir des financements,
ouais.
Chose qu'on n'arrivait pas du tout à avoir, et là on a débloqué deux financements grâce à notre banque et à la BPI.
Okay.
Donc voilà pourquoi ça n'a pas été trop une mauvaise période
ouais.
pour l'ICO, ce qui a été un peu dur forcément.
Télétravail.
Nous on adore travailler ensemble, donc on s'est retrouvés chacun chez nous, voilà, c'était pas bien marrant.
Après vous avez de la chance, vous habitez à Lyon où les
oui.
surfaces d'appartements sont un tout petit peu
oui.
plus grandes
oui.
que à Paris, avec les collègues dans les 18 mètres carrés, genre courage à vous.
Mais par contre moi, je venais tous les matins au bureau, j'étais
okay.
tout seul dans les bureaux. Mais travailler chez moi, je n'y arrive pas.
Ouais.
Je ne suis pas une personne faite pour le travail à distance. Donc,
ouais.
donc tous les matins, j'avais besoin de mettre ma petite veste de costume, ma chemise, pour vraiment
te mettre dans le cadre
en condition de travail.
Ouais.
Et donc je venais tous les matins au bureau, j'étais tout seul.
Ouais.
Mais voilà, j'avais besoin de ça. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal avec le travail à distance.
Ouais.
J'évite de le faire. Mes équipes, quand elles veulent le faire, elles le font. Mais très sincèrement, dès qu'on nous a permis de revenir travailler ensemble, tous les collaborateurs m'ont demandé.
Tout le monde a couru.
Et certains entrepreneurs me disent que c'est totalement le contraire. Leur équipe leur a demandé de rester en télétravail. Moi, c'était le contraire. Ils m'ont tous dit, on veut revenir au travail.
Ou sinon, il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant laissent le choix.
C'est ça.
Et qui imposent, par exemple, deux jours par semaine, et puis ou un jour par semaine
c'est
au
ça.
Moins pour voir tout le monde va bien, etc. Les équipes, maintenant, enfin, ça a aussi permis de rendre les gens, tout ça, beaucoup plus flexible. Surtout dans l'informatique, c'est vrai que, bon, voilà, c'est facile d'être à la maison, à distance, une fois que tu as le bon matériel pour travailler, c'est vrai que, voilà. Mais ça.
D'accord.
Maintenant, les entreprises sont plus. Voilà, flexible, les gens qui peuvent travailler à distance, ils le font, et etc. Tu parlais de l'entrepreneuriat comme une passion. Est-ce que tu envisages, je ne sais pas, est-ce que c'est monter une autre entreprise ? D'autres projets ?
Pas tout de suite.
Je
pas
sais
tout
pas.
De suite.
Tu peux peut-être avoir d'autres idées.
J'ai d'autres idées et j'aurais envie de monter d'autres projets. Et en plus, j'ai une équipe formidable qui me suivrait encore sur d'autres projets.
On y va !
Mais je pars du principe que si je passe du temps sur un autre projet, c'est faire prendre un risque à celui-là.
Oui. Qui n'est pas encore
qui
le temps
encore,
de bien.
Mais okay. oui, je pense que l'ICO, très sincèrement, ne sera pas la dernière entreprise que je créerai. Donc j'aimerais en créer d'autres derrière. J'aimerais, et je nous le souhaite, qu'on atteigne nos objectifs, pouvoir financer d'autres entreprises, devenir ce qu'on appelle un business angel.
Ouais.
Donc pouvoir trouver des petites pépites sur lesquelles on va investir et qu'on va aider à accélérer. L'un de mes rêves, ça serait de monter ce qu'on appelle un startup studio.
Oui, d'accord.
Alors, il y en a un peu en France, mais ils ne sont pas très connus. Un startup
oui,
studio,
oui.
c'est une entreprise dont son travail est de créer des startups à la chaîne. Sur des idées, sur plein d'idées, et de créer des startups à la chaîne, de monter des équipes dessus, de créer plein de projets comme ça. Il y en a une très connue qui s'appelle Rocket Internet en Allemagne, qui a créé notamment des boîtes comme Foodora, enfin comme très grosses entreprises.
T'as aussi dans le milieu de l'aérospatiale, Starburst, qui est intervenu sur Slice, avec Sandra Budimir,
exactement.
Où c'est vraiment les pépites du spatial, les prochaines
exactement.
Fusées, les prochains satellites, etc. Et là, c'est vraiment les aider à se développer, et puis prendre leur envol, et devenir les futures licornes de demain. Ouais,
donc, et je suis tellement passionné par mon travail que si demain je peux avoir une équipe et des financements qui me permettent de créer plein d'entreprises et de pouvoir monter des nouvelles équipes, ouais, je pense que ça, j'aimerais bien. Ça serait, alors c'est pas tout de suite, je pense, mais plus tard, je pense que c'est ce que je ferais.
Ok, parfait. Bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour.
Ouais, c'était cool.
Dernière question du podcast. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de monter une entreprise, qui pensent qu'ils ont une bonne idée, quels sont les petits conseils que tu leur donnerais pour essayer de faire les choses pas trop mal? Comment s'y prendre pour éviter de se casser le nez, voilà, pour faire les choses bien?
Alors, la première chose, surtout si vous avez une idée, ne la gardez pas pour vous et partagez-la.
Ouais.
On a souvent ce mythe de dire, dès qu'on a une idée, on ne veut en parler à personne, ouais, parce qu'on a peur qu'on nous pique.
On nous pique, ouais.
C'est complètement faux. Aujourd'hui, on est des milliards d'habitants sur Terre. L'idée que vous avez, forcément, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu
ouais,
au même moment. Donc, il faut en parler, il faut discuter autour de soi. Ne serait-ce que pour avoir des échanges et des retours, c'est ce qui construit un projet. Donc, déjà, premier conseil, c'est parlez-en. La deuxième, soyez optimiste. Entourez-vous. Trouvez des gens optimistes autour de vous qui ne vont pas vous casser, mais qui vont vous apporter des conseils bienveillants. Et puis surtout, n'ayez pas. Enfin, je pense que c'est un peu la schizophrénie de l'entrepreneur. Il faut avoir assez d'ego pour pouvoir avoir un projet et de se dire on va le développer, puis on va avoir une équipe et puis on va réussir. Mais en même temps, il faut avoir pas trop d'ego pour arriver à comprendre que parfois on peut se tromper, ouais, et qu'on n'a pas la science infuse.
Écouter les conseils.
Exactement.
Des autres.
Je pense que c'est ce juste milieu qui est assez compliqué à trouver, c'est de dire avoir la confiance en soi, mais en même temps de ne pas trop l'avoir et d'être comprendre qu'en fait il faut écouter les autres. Et la capacité d'entrepreneur, c'est d'écouter et ensuite de prendre ses décisions par rapport à tout ce qu'il a entendu. Ouais. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont convaincus que ce qu'ils font va marcher et que de toute façon les autres ne savent pas du tout ce qu'il faut faire, ne connaissent pas leur marché. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs d'entrepreneurs. Ceux qui sont le plus à l'écoute, c'est en général ceux qui réussissent le mieux.
Ok, super. Et bah, écoute, merci pour tout.
Merci
pour ce moment passé ensemble. C'était super intéressant.
Bah, merci à toi.
Inspirant. Ça donne envie de se lancer directement. Genre, je vais monter ma boîte demain. Je te souhaite le meilleur. Un bon bouclage de levée de fonds pour cette fin d'année. Le meilleur pour ton équipe, pour toi, professionnellement et personnellement. Et puis, je te dis à très bientôt.
Et ben, merci à toi. Merci d'être venu et longue vie à Slice.
Super. Merci beaucoup. Bye bye.
Bye.
Merci encore à Laurent de m'avoir accueilli chez Lico. Comme d'habitude, un article dédié à l'épisode est disponible sur le site internet de Slice au www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter des podcasts et de prendre bien soin de vous. Bye bye !